ikoner, Jansel. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the work. Now they can't say anything, I do it myself. Wanna go somewhere, I take myself out. You run a long take, yeah, no doubt. Get it done, yo, give me a shout. Yeah, you want it suited, give me a shout. F that vibe, get rid of the doubt. Yo, answers there, well, figure it out. Drop me the riddle, we'll figure it out. London's fast with bubbles and stout. Old school flows, what you talking about? Late night shows, I've been running around. From north to south, I've been running around. But I couldn't care less if they talk to me now. Where was you then? We've been suiting it out. For a hot minute, hot second, carving the sound. Layers got layers, you know we get down. No bad vibes here, yeah, that's not alert. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the worth. Now they can't say anything, I do it myself. Do it yourself. Like Doja, yeah, we paint the town red. Thought you was close, I left you one bread in the meeting. Yeah, make note of what I said. If I'm eating, yeah, we're sharing that bread. Get it done, I do it instead. But truth is, I can see inside your head. So I do it myself, don't do it for them. Do it for the family, do it for a friend. Don't wait on anyone, I say it again. All I need is me and my pen. Healing, feeling, yeah, on the men. But seeing, reading, every day zen. Tell me, when's the ETA then? Work around the clock like Big Ben. Do it myself, don't do it for them, them. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the worth. Now they can't say anything, I do it myself. Do it yourself.
Ok. Petite soirée chill. Discussion actuelle. Motion de censure. Super bizarre ça. Merci Rico Samar. Merci Yoshi Forever. Merci Malo 1706. Merci Djouboul 13. Oh mon Djouboul qui est de retour. Comment vas-tu? Merci Toshi FRTV. Merci Célia Lamelas. Merci Raffaello. Vous êtes formidable. Heureux de vous retrouver. Pardon de ne pas avoir été plus tôt. J'aurais aimé passer. Ma journée, mon après-midi, mon début de soirée avec vous, mais j'étais sur question pour un champion toute la journée, 8h, 19h, 19h30 ce soir. Pff, et le Djouboul, le Blubloutch qui régale, 10 abonnements offerts à la commu, merci mon ami, merci Anonyme31 pour le 34e mois, vous êtes incroyable. Et donc ouais, je sais, alors, vous étiez en bonne main, hein. Il y avait l'ami Jean voilà, qui a fait un excellent travail, donc c'était super. Mais donc question pour un champion, aujourd'hui, demain... Vendredi, donc là je peux streamer que le soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, pareil. Bon, en même temps, c'est pas si mal. J'adore ce jeu, donc je suis très heureux de le faire. Voilà. Ouais, je vois que t'es back, Djouboul. Voilà. En même temps, c'est pas grave. Moi, je suis pas tellement. J'aime pas trop commenter le truc qui est en train de se faire. Parce qu'en fait, rien à voir avec ce que fait Jean. Il a une expertise, une connaissance de la vie parlementaire qui est incroyable. C'est vraiment son. C'est son ult à lui, quoi. Donc, je parle pas de ce que fait Jean, mais ce que font les chaînes d'info en permanence, c'est de commenter ce qui est en train de se passer pendant des heures, des jours. C'est épuisant, en vrai, ça n'a aucun sens. Alors, moi, je suis un peu un paresseux. C'est pour ça que j'aime la presse écrite. J'aime parler des choses quand elles se sont produites. Et quand on est sûr qu'elles se sont produites. Voilà. Donc, en même temps, arriver après la motion de censure et savoir que, corrigez-moi si je dis une bêtise parce que j'ai pas pu suivre l'actu aujourd'hui, le gouvernement est tombé. Hein, le gouvernement le plus court de l'histoire de la 5e République. Et que le président Macron va devoir former un nouveau gouvernement, trouver un nouveau Premier ministre. Bon, maintenant, c'est sûr, on peut y aller, quoi. Voilà. 331 voix pour, merci MMG. Donc là, on y est. Donc là, on va pouvoir aller voir l'actu, ce qui s'est passé. Voilà. Bon, c'était pas une énorme surprise, mais il y avait un monde où, éventuellement, il n'y avait pas vote, avec un revirement du dernière minute de Marine Le Pen, du RN. Donc voilà, moi, mon truc, c'est plus de commenter après, à froid, parce que je pense qu'on prend moins de risques de faire des erreurs quand on commente une actualité qui est avérée, qui est réalisée, plutôt que pendant des heures. Et je ne parle pas de gens, hein, je parle bien des chaînes d'infos. Par exemple, ben, on parle d'un truc qui est en train de se produire et un truc qui va se passer ou pas. Après, Jean c'est différent. Jean, il vous propose une expertise sur la vie politique et notamment parlementaire dans notre pays. Pour le coup, c'est un bonheur parce que lui, il ne commente pas ce qui est en train de se passer en créant une fausse attente ou un faux suspense. Lui, il vous apporte des infos et une culture de la question politique qui est juste incroyable, quoi. Voilà. Mais c'est pas plus mal d'arriver après, quoi. D'ailleurs, stream en retard parce que j'avais oublié mon iPad et merci les modos. Très bonne question de Lulu Berlu à l'instant. Les modos, je voyais leur échange dans le chat tout à l'heure qui disait bah c'est cool, avec ça on va peut-être pouvoir lire les journaux. Parce que les modos et les viewers habitués savent que les journaux que je lis, Le Monde pour le soir, mais l'après-midi, c'est un quotidien de l'après-midi, mais le matin, Le Parisien, Libération, Le Figaro, Les Échos, La Croix, L'Humanité, etc. C'est des journaux potentiellement qu'on peut avoir en téléchargement dès le soir. Il y a des journaux qui sont disponibles dès 22h le soir. Voilà. Il y a certains un peu plus tard, certains qui peuvent boucler un peu plus tard. Donc ça veut dire que ce soir, on va pouvoir voir des articles un peu creusés hein, sur le sujet, prendre un peu de recul, discuter ensemble, quoi. Alors dans 30 minutes environ, on dit MMG, ça dépend. Ça dépend parce que les journaux sont en capacité de changer parfois tard le soir et tard dans la nuit leurs articles en fonction de l'actualité. Et comme cette info est tombée relativement tard, à quelle heure ? Merci Stavounet pour l'abonnement offert à la commune, c'est adorable. Merci Marmat, merci aussi sur TV. Merci Sissim. Merci encore Malo LC. 20h30, c'est ça ? Ouais. 20h20, 20h30. Bon, comme c'est tombé assez tard, les journaux sont en train d'écrire. En même temps, comme cet événement était prévisible quelque part, anticipé, anticipable, peut-être que beaucoup d'articles étaient déjà prêts avec deux versions. Un article en cas de réussite de la motion de censure, un article en cas d'échec. Voilà. En même temps, le résultat était prévisible. Oui, Antoine, prévisible et en même temps, c'est de la politique. Et tout est possible. Et il y avait un monde où Marine Le Pen, le RN, changeait d'avis au dernier moment pour X raisons. C'est la politique. C'est aussi ce qui est fascinant dans la politique, c'est aussi une question d'hommes et de femmes. Donc les gens ont le droit de changer d'avis et de surprendre. Hein ? Qui aurait prédit la dissolution du président Macron totalement ratée il y a quelques temps ? Donc voilà. Mais je pense qu'on va avoir... voilà, Camille me dit que Libération a déjà sorti sa une. Je ne suis pas surpris, effectivement, on va y aller voir. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a un monde où dans une demi-heure, on va commencer à avoir des journaux. Et on va pouvoir se pencher là-dessus. Mais on va pouvoir en parler dès maintenant, bien sûr. GTA plus tard. Bon, moi, j'avais prévu un petit GTA mode histoire solo ce soir, mais je pense que pour un streamer qui est journaliste depuis 30 ans, ne pas parler ce soir de la motion de censure aurait été une faute. Hein, une faute grave, une faute lourde, hein, nécessitant un licenciement, un débarquement du dit streamer de Twitch, quoi. Voilà, donc, je pensais que c'était un peu obligatoire. La crime, voilà, comme dit Nathan. Voilà. GTA RP, premier ministre des Balasses. Oui, on m'en aurait parlé ce soir. Et Camille me dit on m'en aurait parlé, je pense. Oui, on aurait eu raison. On aurait eu raison de me dire dis donc, Samuel, t'es gentil. C'est bien ton petit virage gaming, divertissement sur Twitch, c'est super sympa. Mais ta commu, tu l'as d'abord construite sur l'information, sur le décryptage de l'actu et sur une info aussi importante que celle-là. Ce soir, partir sur du GTA, sur du Valo, ou sur je sais pas quoi, qu'est-ce que j'aurais pu... Du TFT, je sais pas, j'aime bien là aussi. Un des premiers jeux auxquels j'ai joué en solo, hors stream, là. C'était quand, là, quel jour on est ? En début de semaine, là. J'ai jamais fait ça. Voilà, là, on m'aurait dit, mais non, Samuel, non, non, non. Macron parle demain, que faut-il en attendre ? Très bonne question, ça c'est une vraie question. Je pensais regarder Jean Massier, mais Samuel Etienne, c'est bien aussi. Alors Jean, c'est formidable, Gaëtan. Hein. Il a fait un stream de combien, Jean ? J'étais surpris, je pensais qu'il poursuivrait toute la soirée. Je pense qu'il avait quelque chose de prévu. Mais je pensais qu'en lançant mon stream ce soir, il serait toujours en live. Jean, il a streamé combien ? 5 heures ? Non, plus que ça, plus que ça. Non, plus que ça. 8 heures, ouais, au moins, au moins, au moins. Ah, incroyable. Cet après-midi, moi, j'étais à Question pour un champion, j'avais mon téléphone sur son live. Et en l'heure que je le regardais... Voilà, c'était... Et je savais qu'on se régalait, je savais que sa commu, que ses viewers se régalaient, parce que je connais la qualité de l'analyse de gens sur ces sujets-là. Quoi. Voilà, 8h20 de stream. Bah ouais. Ouais. Et il a Backseat demain aussi. Quoi, on est jeudi demain ? Bah ouais, Backseat en plus. Ouais. Et en costume, oui, j'ai vu. Et en cravate. Ouais. 8 heures, il a fatigué en étant juste fatigué. Ouais, il a arrêté en étant fatigué. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, bah en plus demain, il y a l'allocution de Macron, quoi. Ouais. Alors, il y a un monde. Jean Top 1 pendant 30 secondes. Bah, tu m'étonnes, mérité. Hein. Pic à 40, pic à 38, ouais. Trop marrant le costard, ouais. Ouais. Il y a un monde où, du coup, je stream quand même Macron, moi, demain soir. C'est quelle heure, Macron, demain soir? C'est 20h, c'est 20. C'est quelle heure demain? C'est Macron, c'est 20h? Merci, Biennette. Merci, Marinette. Merci, Stavounet. 20h? Il y a un monde où je suis rentré, ouais. Donc là, je vais le streamer quand même. Parce que ça, c'est. Faut faire, quoi. Ouais, bon, on y va? Ok. Bon, en attendant les journaux. Tiens, vous savez quoi? On va le faire en direct. Salut, Alexandra, ça va? En attendant les journaux, allons voir s'il n'y a pas déjà. Certains sont arrivés. Oui, voilà, ça m'étonnerait, hein, c'est un peu tôt. Hop. Ok. Ça, c'est ma tablette, c'est tous mes journaux. Bon. Ça, c'est le monde qui est sorti cet après-midi. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune chance que. Petite tablette un peu capricieuse en ce moment, c'est pas très grave. Ah, c'est intéressant ce qui se passe. Ok. Ok, d'accord. Censure les apprentis sorciers. Ça, c'était la une de ce matin. Ok, le Parisien n'est pas encore sorti. C'est intéressant de voir ce que les journaux écrivaient avant. Hein ? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont appelé leurs troupes à voter la motion de censure du gouvernement, quitte à mettre le pays à l'arrêt. Ok. Libération. Est-ce que Libération de demain matin est sorti ? Il va sortir dans les prochaines minutes. Il est sorti. Non, c'est celui de ce matin. Censure, son échec, hein, Libération qui disait le FN prévoit de voter ce mercredi la motion de censure déposée par la gauche, donc Libé s'est pas trop trompé, sonnant le glas du pouvoir. Donc faut que je télécharge parce que je n'arrive pas à le lire. Parce que, voilà, pour l'avoir en bonne qualité. Du gouvernement Barnier, 6 mois après la dissolution, la position du président n'a jamais été aussi fragile. C'est juste. C'est juste. Donc, intéressant. Évidemment, l'allocution, c'est pas intéressant, c'est très attendu l'allocution du président demain. Quoi. Bon, ça, c'est le Libé de ce matin. Voilà. Dans quelques minutes, on aura le Libé de demain matin. On l'aura avant tout le monde. Ha 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 ! Merci MMG. Tiens, on a déjà la une. On a déjà la une, je vous la montre. Hop. Bon, ça, c'est la une de demain. Bon, Libération, ils sont très forts pour les unes. Jeu de mots, jolie photo. Là, le choix de la photo, il est parfait. Hein, Michel Barnier de dos, hein, c'est Michel Barnier qui s'en va, c'est Michel Barnier bah, qui subit un revers, bien sûr. Hein. C'est Michel Barnier, malgré toute sa bonne volonté, parce que je suis pas sûr que le mec ait démérité dans cette mission impossible, on va le dire ce soir, dans cette mission impossible, hein, de concilier des groupes parlementaires aussi différents en l'absence de majorité pour faire voter des textes, et notamment... ici, un projet de financement de la sécurité sociale, et puis après, c'était un projet de budget. Donc, on le dira ce soir, la mission était quasiment impossible. Michel Barnier va rentrer dans l'histoire de la Ve République comme le Premier ministre qui sera resté le moins longtemps de toute l'histoire de la Ve. Bon, ça, c'est sur un CV, c'est pas terrible. Michel Barnier censuré, donc on le voit de dos, c'est parfait. Veni, vidi, et non pas vici, hein, viré, c'est pas mal. Non pas, je suis venu, j'ai vu... J'ai vaincu, mais je suis venu, j'ai vu, et j'ai été viré. Par 331 voix, les députés ont renversé le gouvernement de Michel Barnier, une première depuis 1962. Plus fragilisé que jamais, Emmanuel Macron doit trouver au plus vite une réponse à la crise. Il a fait moins 15-9. Ah, très bonne question. On va aller voir ça. Tu penses que 15-9, il a fait moins merci, j'ai fait de mon mieux pour l'abonnement offert à Michel Barnier. J'aime cet humour. Durée, gouvernement, peut-être, hein. Le chat, il est là justement pour affiner l'actu. Donc, quand on fait une erreur, on la corrige ensemble. Du 6 décembre au 15 mai. Décembre, mai. Alors, décembre, quasiment en entier. Janvier, février, mars, avril, 5 mois pleins, 5 mois et demi. Ouais. 5 mois et demi à peu près, 5 mois 9 jours, on me dit. C'était combien Barnier? En durée. C'est combien? 90 jours, 3 mois? Ah ouais, donc alors là, bon voilà, info. Fake news dans le chat. Voilà, merci MMG. MMG, mon chouchou! C'est bien beau d'être un support de la chaîne, mais je passe mon temps. Je passe mon temps à répéter qu'une information dans le chat, avant d'être donnée, il faut être vérifiée. Vous aussi, vous devez faire preuve de rigueur. Hein, on contrôle l'information ensemble, mais quand vous émettez une info, il faut la vérifier. Donc quand on dit, ah, je crois que c'est Cazeneuve a fait encore moins, il faut pas le dire, faut pas le dire, il faut vérifier avant. Ça vous prend 10 secondes en vrai. Hein. Voilà. Une question, je vais t'en donner des questions, moi. Voilà. Non, c'était pas vraiment une question. Ouais, c'était je crois non point d'interrogation. C'est pas Samuel, est-ce que tu peux vérifier si Cazeneuve a fait moins? Non, c'est je pense, est-ce que vous pouvez quand même vérifier quand même? Je suis pas sûr de moi. T'es pas sûr, tu vérifies. Hein? Faisons, c'est vraiment important au quotidien parce que là, ce que vous faites dans le chat, demain vous allez le faire avec vos proches. Voilà. Quand vous émettez une information, voilà, essayez de vérifier au minimum, quoi. Sinon, on finit plus, quoi. Moi, je lis quasiment intégralement le chat. Si vous popez des infos qui m'intéressent parce que du coup, elles contredisent ce que je viens de dire, bah, tout de suite, je vais aller le vérifier. C'est une perte de temps pour tout le monde, quoi. Voilà, on a perdu 5 minutes là-dessus. Donc, ouais. Faites attention. Ouais. Moi aussi, je peux avoir des voilà. Ok? Voilà. La source, la source, la source, la source, la source, la source. Bon, on passe. Bon. Est-ce qu'on a des journaux qui sortent? Est-ce qu'on a le Figaro qui sort? T'as un roulement de tambour. Est-ce qu'on a le Figaro de demain? Ça m'étonnerait. Non, on l'a pas. Ce matin, le Figaro disait, sous pression, Macron prépare l'après Barnier. Bon, ils sont pas trop trompés. La Croix, est-ce qu'on a. Ah, La Croix, c'est un journal qui boucle assez tôt. Est-ce qu'on a La Croix de demain? On a La Croix de demain. On a La Croix du jeudi. C'est intéressant. Alors parfois, il y a un journal qui est obligé de partir au bouclage, comme on le dit. Je te lis, Paul, arrête. Hein? Attention, attention, il faut être prudent. Parce que parfois, on a un journal qui part au bouclage parce qu'il est obligé de le faire pour des raisons techniques. Voilà. Mais il n'a pas le temps de prendre en compte les dernières infos. Donc, ça peut être un dossier de La Croix qui n'a pas encore l'info. Lisons. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Prudence, prudence. Début de l'édito. À l'heure où nous bouclions ces lignes, l'Assemblée nationale devait, selon toute vraisemblance, provoquer la chute du gouvernement Michel Barnier. Ils sont partis au bouclage, comme on dit, avant l'info. Voilà. Donc ils n'ont pas l'info. Voilà. Voilà. L'issue du vote n'était pas connue à l'heure du bouclage. Voilà. Donc vous avez plus d'infos que la Croix. Donc pour le coup, la Croix ne va pas être d'une grande utilité ce soir pour nous. Ouais. Le bouclage, clôturage, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Voilà. Alors après, si vous êtes sur le site internet de la Croix, où les articles peuvent être actualisés non-stop, là vous allez trouver les articles actualisés. Mais sur le journal PDF, tel qu'on peut le télécharger à cette heure-là, peut-être qu'il y aura une autre version PDF dans la soirée ou dans la nuit. Hein, parce que quand on parle de bouclage, c'est surtout pour parler d'un journal qui part à l'imprimerie. Là, il y a des délais. Hein, des délais de fabrication, d'impression, de distribution. Donc il y a des délais. C'est comme ça qu'il y a des journaux parfois qui partent à l'imprimerie alors qu'ils n'ont pas les dernières infos. En revanche, un PDF, un journal La Croix en support numérique PDF, il peut être changé toute la nuit. Donc peut-être qu'on aura une autre version plus tard, quoi. L'Humanité, c'est un journal qui boucle assez tôt. Peut-être que l'Humanité a le même problème. Kiosque. J'adore cet exercice. J'adore les journaux. C'est quoi, c'est jeudi ça? 4 décembre. Non, c'est ça, non, c'était ce matin. L'UMA est pas parti au bouclage. Okay. L'Opinion, c'est un journal qui boucle tôt. Peut-être qu'ils ont eu le même problème. Okay. Hop, l'Opinion, il faut que je le quitte pour le réouvrir. Je vous le mets. Tout, tout, tout. Alors, le journal, il est là. L'Opinion. Ça, c'est le journal de ce matin, pas de problème. Les échos, ils bouclent plus tard. Les échos, on n'aura pas. Ça, c'est sûr. Quasiment. Oh, me trompe. 5 décembre. Est-ce que le journal du 5 décembre de demain, est-ce que le PDF que nous avons actuellement prend en compte le parti? Eh oui! Ah, bravo, les échos. Il est 21h44. Vous avez déjà les échos du lendemain. Prêt avec la dernière info. La motion de censure déposée par la gauche a été votée mercredi par le RN. Moins de 3 mois après sa formation, le gouvernement Barnier est renversé. Hein, la France entre dans une ère d'incertitude inédite. Intéressant, PMR 59 le souligne. Les échos choisissent de dire les extrêmes. Bon, il y a l'extrême droite. Est-ce que l'alliance de la gauche, le nouveau Front populaire, peut être qualifié d'extrême avec LFI à l'intérieur? Ça, c'est un débat. Hein, vous le savez, c'est un débat. Donc, selon les échos, bon, ils ont fait ce choix. Voilà. La France entre dans une ère d'incertitude inédite. Alors ça, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est sûr. Bah, du coup, on va pouvoir lire les échos un petit peu, c'est intéressant. Bon, l'équipe. Je ne vais pas vous mettre l'équipe. Je ne vais pas vous mettre l'équipe. Du coup, on peut commencer par... on pourrait commencer par les échos, par exemple. Moi, j'ai envie d'aller voir ce qu'un site comme le site du Monde. Hein, le Monde, c'est un journal qui ne sort pas le matin. C'est un journal qui sort en début d'après-midi. C'est un ancien journal du soir qui est devenu un journal de l'après-midi. Le Monde, la dernière édition du Monde, vous pouvez le lire en début d'après-midi à partir de 13h, 14h, selon votre abonnement. Donc là, le prochain Monde PDF, il est demain après-midi. On est déjà allé voir l'UMA et les Parisiens. Monsieur de Masmecker était un petit peu en retard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le site du Monde. Voilà. Alors moi, je suis abonné, je ne vais pas vous montrer, mais je ne montre pas mes logs. Donc là, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté au Monde, donc il me demande mes logs. Je suis abonné à tous les journaux, c'est un petit peu mon plaisir, mon petit plaisir coupable, j'aime bien. Donc allons sur le site du Monde pour avoir tous les articles, y compris ceux pour les abonnés. Parce que parfois, il y a des articles qui sont en accès restreint, parce qu'un article, ça coûte de l'argent à fabriquer. Et si tu mets tout gratuit, eh ben, à un moment, tu fermes ton journal, quoi. Il faut trouver le modèle économique. On ne peut pas leur en vouloir. Ouais, enregistré, ouais. Ok, très bien. Okay. Ah, le Monde, c'est parti. C'est comme les skins. Tu as un abonnement par journal, j'ai un abonnement par journal. Ouais. Ouais. Bah oui, mais en même temps, c'est mon bonheur. Alors, le gouvernement de Michel Barnier renversé. Emmanuel Macron s'adressa aux Français jeudi. Je peux déjà vous dire que demain, on sera en live pour suivre ça ensemble. Quelques 331 députés ont donc voté en faveur de la motion de censure. Merci Nolico, c'est gentil. Déposé par le nouveau Front populaire, c'est la gauche qui est à l'origine de cette motion de censure, on va le rappeler. D'ailleurs, qui avait, dans la formulation de cette motion de censure, avait été très critique pour l'extrême droite, pour le RN, et je m'arrête un instant là-dessus, c'est pour ça qu'on s'est posé jusqu'au bout la question de Marlon, je vais t'expliquer ce que c'est une motion de censure dans un instant, parce qu'il y a des gens ici qui suivent l'actualité de très près et qui savent ce que c'est. Mais tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que c'est une motion de censure. Ça, ça ne me choque pas, quoi. Je vais vous l'expliquer. Alors, on va recommencer par la base. Mais juste pour vous dire pourquoi il y avait un suspense jusqu'au bout. Pourquoi il y avait un suspense jusqu'au bout? Parce qu'en fait, la façon dont cette motion de censure lancée par la gauche avait été écrite, bon, c'était un texte qui était très critique, s'ils sont allés jusqu'au bout de leur logique, c'est ce que j'avais lu, vis-à-vis de l'extrême droite. Et donc, est-ce que le RN de Marine Le Pen allait apporter ses voix à un texte de motion de censure, certes contre le gouvernement, mais qui était très critique dans sa formulation contre le RN? C'était pas sûr. Sachant que le RN allait proposer après sa propre motion de censure. Après, le RN savait très bien qu'il y avait peu de chances que la gauche aille voter une motion de censure votée par le RN. Donc si le RN voulait faire tomber le gouvernement Macron, il était quelque part un peu obligé de voter une motion de censure écrite par la gauche, même si cette motion de censure était très critique pour le RN. C'est pour ça qu'il y avait un suspense jusqu'au bout. C'est pour ça que moi, je me suis dit que jusqu'au bout, même si l'hypothèse de la motion de censure votée était clairement le scénario le plus probable, il y avait un monde où elle n'était pas votée au dernier moment par un revirement, un changement d'un minute de Marine Le Pen. Voilà. Le gouvernement Barnier, le deuxième de la Ve République, a chuté. La politique, quel bourbier? Non, c'est pas un bourbier, c'est juste compliqué, comme plein de sujets. Et donc, il faut hélas du temps pour le comprendre. C'est pas un bourbier. Le gouvernement Barnier, le deuxième de la Ve République, a chuté, hein, après celui de Georges Pompidou en 62, et encore, les contextes étaient extrêmement différents. Force à toi, Ferrato. La démission du Premier ministre est automatique après le vote de la censure, selon l'article 50 de la Constitution. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Pourquoi le contexte est très différent par rapport à 62? Merci, Pompote. Certains, ces derniers temps, ont dit c'est 62, pas 63. Et après, on va définir ce que c'est une motion de censure. En 62, il y a une motion de censure contre le gouvernement Pompidou à l'époque. Donc vous avez une majorité de députés qui votent pour débarquer le gouvernement Pompidou. Voilà. Que fait le général de Gaulle à l'époque, et le président de la République ? Si je ne dis pas de bêtises, il dissout l'Assemblée, ce qu'il a le droit de faire. Hein, c'est une prérogative du président. Ce que ne peut pas faire le président Macron actuellement, parce qu'il y a un cool-down d'un an sur la dissolution, sur ce pouvoir du président. Et là, il a dissous il n'y a pas très très longtemps, donc il faut qu'il attende. Donc déjà, première différence, le président Macron ne peut pas dissoudre. Le général de Gaulle dissout, voilà. Il retrouve une majorité très très forte aux législatives suivantes, voilà. Et devinez qui il nomme. Voilà, il n'a plus de mana. Il avait plus de mana. Il a déjà utilisé son ulti, notamment. Et devinez qui il nomme, le général de Gaulle, après la dissolution. Ben, Georges Pompidou, exactement MMG. Pompidou. Et puis après, le projet de budget qui n'était pas passé à l'époque, il l'a repassé, quoi. Évidemment, le contexte est extrêmement différent, puisque, un, Macron n'a plus d'ulti, n'a plus de dissolution de l'Assemblée. Son cooldown l'emmène à, je ne sais plus, juin, non ? C'est pas en juin, la prochaine dissolution possible ? C'est pas ça ? Mai, juin, par là. Deux, juin, voilà. Il n'y a aucune chance qu'il ait une majorité. Hein, voilà. Il n'y a aucune chance qu'il ait une majorité. Le général de Gaulle, à l'époque, il était dans un contexte politique où il savait qu'après une dissolution, il pouvait revenir avec autant de députés, voire avec plus de députés. Macron, la dernière fois qu'il a essayé de dissoudre l'Assemblée pour avoir plus de députés, il est parti d'une majorité relative. Il a réussi l'exploit d'en avoir encore moins après. Catastrophe, pire décision ever. Voilà. Et donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Voilà. Donc, à supposer que le président Macron puisse dissoudre aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, il se reprendrait une veste aux élections, hein, il se reprendrait un nouvel échec, et il aurait peut-être encore moins de députés. La situation serait encore plus grave pour lui, quoi. Donc la situation est extrêmement différente. Donc c'est pour ça que vos médias disent on est dans une situation inédite. Hein. On est dans une situation inédite. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que j'attends avec impatience, voire avec gourmandise, ce qui va ce qui va se passer demain soir quand le président Macron va prendre la parole. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, c'est le 7 juillet 2025 ? C'est juillet 2025, la prochaine dissolution possible ? Ok. Qu'est-ce que c'est une motion de censure ? Bon, la plupart d'entre vous, vous le savez, une motion de censure, mais je comprends aussi qu'on ne soit pas forcément intéressé, ni passionné, ni au courant de ces sujets. Une motion de censure, voilà, c'est la capacité de l'Assemblée de faire tomber un gouvernement. Voilà. Système constitutionnel de la Ve République, qui est la règle du jeu politique qui s'applique depuis 1958 en France, donne a priori plus de pouvoir à l'exécutif par rapport au législatif, d'accord ? Plus de pouvoir au gouvernement et au président par rapport à l'Assemblée et au Sénat. Okay ? Y a quand même l'Assemblée a quand même des pouvoirs. C'est l'Assemblée qui vote la loi, voilà, ça c'est sa prérogative, sauf en cas de 49-3, encore un sujet intéressant. Et l'Assemblée a un pouvoir aussi, voilà, de pouvoir débarquer le gouvernement, de le virer, si une majorité de députés, hein, ce qui est, c'est très compliqué à trouver, vote une motion de censure. Voilà, hein, une motion de censure contre le gouvernement. Et quand le gouvernement utilise le fameux 49-3, hein, cet article de la Constitution qui permet, ce qui est une exception, certains diront une exception démocratique, de faire passer un texte de loi, un projet de loi, sans vote de l'Assemblée, parce que le gouvernement se doute qu'il n'y aura pas une majorité pour le voter, donc ce 49-3 qui est bien pratique pour l'exécutif et le gouvernement, eh bien, s'ouvre la possibilité pour l'Assemblée de voter une motion de censure pour débarquer le gouvernement. Ce qui n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de la 5e, pourquoi ? Parce que c'est très très compliqué de trouver une majorité suffisamment forte pour voter une motion de censure. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. La motion de censure a été votée. C'est n'arrivé que deux fois depuis 58, une fois en 62, une fois en 2004. Voilà. Alors, voilà, bon. On a salut Aurel. Merci Ronan Nan pour le soutien fumiste. Merci beaucoup. Merci Mademoiselle Missy à l'instant. Merci Dérès. Merci Jeff. Fais de mon mieux. Comment vas-tu ? Merci Dark Wolfie. Merci Clairon. Merci The Monk. Merci Pierre-Yves. Merci, vous êtes formidables. Il y a un petit diagramme là, un petit graphique du monde, regardez, avec les gouvernements les plus courts de l'histoire de la 5e. Oh là là ! Oh, le petit carré bleu, là, tout en haut, là. Oh, le petit carré bleu, là, tout petit, c'est Michel Barnier. 2 mois, 29 jours. Incroyable. Voilà. Et on parlait de Cazeneuve tout à l'heure. 5 mois et 8 jours, mais c'est un centenaire, Cazeneuve, par rapport à Barnier. Oh, c'est pas la taille qui compte. Hein. C'est pas une question de taille, c'est une question de durée. Regardez. Oh, Pompidou, 6 ans, 2 mois, 26 jours. C'est le record, manifestement. Eh oui, parce qu'il a été nommé 2 fois à la suite, lui. C'est pas un 4 à la suite, c'est un 2 à la suite. Voilà. Dans les très, très longs, on a Jospin, 97-2002. Hein, 4 ans, 11 mois, 3 jours. On a Fillon. Ah ouais. C'est avant l'histoire des costumes, ça, et des vestes. 2007-2012. Voilà. On a Édouard Philippe qui a été OK. 3 ans, 1 mois, 21 jours. On a Raymond Barre, l'économiste. 4 ans, 9 mois, 15 jours. Voilà. On a Mauroy aussi qui a été assez long. Voilà. Et on a Barnier. Voilà. 2 mois, 29 jours. Si on prend les gouvernements du président Macron, vous avez eu le plus long, c'est Édouard Philippe, c'est le premier. 3 ans, ce qui est assez long. 3 ans, 1 mois, 21 jours. On a Castex, très bonne remarque dans le chat. Ouais, Antoine, avant les mandats présidentiels duraient 7 ans, le septennat. Donc, mécaniquement, avec une majorité forte à l'Assemblée, c'est vrai que les premiers ministres avaient plus de chances de durer. Pas faux, pas faux. Donc, le plus long, Édouard Philippe, 3 ans. Castex, déjà, c'est beaucoup moins, 1 an, 10 mois. Hein, donc, on parle des gouvernements Macron. Borne, Elisabeth Borne, ça continue à diminuer. 1 an, 7 mois et 24 jours. Ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance, moins les gouvernements durent longtemps avec Macron. Vous avez vu, c'est intéressant, hein, comme quoi un diagramme, ça nous donne beaucoup d'infos. Hein. Attal, encore moins. 7 mois, 27 jours. Puisque là, voilà. Et là, 2 mois et 29 jours. Donc si on suit cette comment on appelle ça en mathématiques, c'est une suite mathématique, une suite arithmétique. Comment on dit, suite arithmétique, je sais pas, c'est comme ça. Bon, le prochain, il dure 15 jours, quoi. C'est une suite, hein, c'est ça. Voilà. Attal, il y a eu dissolution, ça compte pas trop. Ah si, tout compte, tout compte. Merci Talonchita. Voilà, intéressant cet article. C'est pas mal. Vous voyez, le monde, c'est plutôt pas mal comme pour s'informer. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là? Ouais. Bon, quel avenir pour le budget après la censure du gouvernement Barnier? On a déjà beaucoup parlé ces derniers jours. Hein. On a fait une revue de presse lundi matin et mercredi matin, et mardi matin. Vous le savez, hein, forcément, dans le budget 2025, il y avait des choses qui étaient prévues. Alors, ce budget ne va pas pouvoir être adopté puisqu'il n'y a plus de gouvernement, hein, et qu'ils ne vont pas s'appliquer. Alors, certains sont gagnants. Hein, certains sont gagnants. Les retraités, par exemple, les retraités devaient voir leur retraite ne pas être indexée sur l'inflation, pas tout à fait, être une indexation des retraites sur l'inflation retardée. Bah, comme ça n'a pas été voté, du coup, les retraités vont avoir une indexation full sur l'inflation et donc ils sont gagnants, les retraités. Scocpo, les agriculteurs sont perdants. Oui, les agriculteurs avaient obtenu plein de choses du gouvernement, ben, des mesures face à la crise que certains rencontrent. Et ben, ça n'a pas pu passer dans la loi. Agriculteurs perdants. Les contribuables vont plutôt être perdants, tous ceux qui paient des impôts. Pourquoi ? Ben, dans le budget 2025, il y avait... Un truc sur le fait que justement on défalquait l'inflation de l'actualisation des barèmes des impôts, quoi, pour qu'en fait la hausse des prix et du coût de la vie fasse qu'on les gens soient pas plus imposés, voilà. Donc ça c'est voilà, les tranches sont pas, voilà, simpli nemo, c'est ça, les tranches sont pas revalorisées. Et donc du coup, ben, ça, voilà, et ça c'est un truc habituel, chaque année on le fait pour qu'en fait l'impôt n'augmente pas mécaniquement en raison de l'inflation. Voilà. Et ça c'est une tradition. Voilà, ben là ça va pas pouvoir être fait. Donc mécaniquement, tous les gens qui sont imposables vont payer un peu plus d'impôts. Voilà. Donc globalement les contribuables sont perdants. Sauf les très gros contribuables. Ha 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 ha, très intéressant. Gouvernement de droite, ça c'est un peu bizarre, mais un gouvernement de droite qui avait décidé d'augmenter les impôts pour les très grosses entreprises et pour les très gros patrimoines, les gens qui payent beaucoup d'IR. Il y avait une espèce de surtaxe exceptionnelle qui devait durer X temps. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, mesure plutôt de gauche, entre guillemets, pour un gouvernement de droite, et pour cause, les caisses sont vides, il faut trouver de l'argent, il faut trouver un petit peu partout. Voilà. Bah ça, ça a pas pu passer. Voilà. Donc on fait du côté des plus riches en France. Il y a un petit ouf là. Il y a un petit ouf. Les très très riches. Voilà. On paie les impôts en septembre prochain. Ils ont le temps de voter pour les impôts. Ben oui. Si un nouveau gouvernement arrive à fabriquer un budget. Voilà. Quel gouvernement demain va trouver une majorité pour voter un budget? Quel gouvernement demain, s'il n'a pas de majorité, puisqu'aucun gouvernement n'a de majorité, hein, ouais, quel gouvernement demain va pouvoir éventuellement utiliser le 49.3 pour faire passer un budget sans motion de censure, hein? Donc, les gens qui me disent « Oh, mais c'est pas grave, dans 15 jours, dans un mois, il y aura un autre gouvernement qui va réussir à faire passer son budget. » Ah bon? Quel gouvernement? Avec quelle majorité? Hein? Donc, politique fiction, allons-y. Parce que là, je vois que je provoque certaines réactions en disant « Mais si, Lucie Castel va y arriver! Merci, le NFP, ils vont y arriver !» On peut en parler. Tu poses la question à l'envers, il faut trouver un budget qui peut être voté par une majorité. Pris dans ce sens, ça semble tout de suite moins improbable. Alors ça, Flyfish, BZH, ça c'est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire si on avait des politiques, si on avait des députés, si on avait des groupes politiques, qu'on appelle les groupes parlementaires, si on avait des partis capables en France de se parler, des partis différents, de se mettre autour d'une table, comme ils le font dans certains pays dans le cadre d'un régime parlementaire, en disant « Bon les gars, on n'est pas d'accord, mais la France a besoin d'un budget, donc on va essayer de trouver, comme nous disait notre ami BZH, là, on va essayer de trouver un budget sur lequel on est d'accord. Et on va former une espèce de coalition temporaire, une coalition, pour voter ce budget, parce que c'est important hein, pour les Français. » Voilà. Alors ça, c'est ce que vient de nous dire notre ami BZH. Il faut partir d'un projet de budget qui soit acceptable par tous. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut trouver un projet de budget qui soit acceptable par des gens aussi différents que... je sais pas, les macronistes et le NFP, par exemple. Bon courage. Ou, acceptable par le RN et le NFP. Bon courage. Parce qu'il faut beaucoup de députés pour voter un budget, vous l'avez compris. Donc, je vais chercher forcément les gros groupes, quoi. Donc, déjà, bon courage. Donc, déjà, il faut trouver un budget qui soit acceptable par ces différents partis, alors que leur philosophie politique est extrêmement différente. Et puis après, il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se mettent... L'Allemagne le fait. Oui, l'Allemagne le fait. L'Allemagne, c'est ce que je viens de dire, un régime parlementaire. Des pays où le régime politique, mais pas seulement, c'est au-delà du régime politique. C'est le régime parlementaire n'est pas un truc à un coup de baguette magique qui nous réglerait nos problèmes en France. Voilà, c'est un problème de culture de consensus. Sarah a raison. C'est un problème de pratique politique. Voilà. Si, comme dans d'autres pays, plutôt parlementaires, les partis ont l'habitude de se parler pour former coalition. Hein, c'est-à-dire de discuter pendant pas des jours, hein, parfois des semaines, des mois, avant de trouver ce qu'on appelle des accords de coalition, et en disant bon, on est différents, mais on se met d'accord sur un truc, et voilà, on va proposer ça aux électeurs, et après on va malgré nos différences, on va gouverner ensemble. Ok. Ça existe dans certains pays. La 5e est un régime parlementaire. Merci, Sucette, pour cette info qui évidemment est totalement erronée. La 5e est un régime qui n'est même pas présidentiel, qui est présidentialiste. Alors, c'est un régime présidentiel, États-Unis. La France est un régime présidentialiste, régime parlementaire. La France n'est absolument pas un régime parlementaire. Ce qui est important dans un régime parlementaire, c'est la capacité des partis à discuter ensemble pour se mettre d'accord. Pourquoi? Ils n'ont pas le choix. Un régime parlementaire est souvent accompagné d'un mode de scrutin qui s'appelle la proportionnelle. C'est-à-dire que c'est le mode de scrutin le plus démocratique où les partis sont représentés au Parlement en fonction de leurs résultats, au pourcentage près aux élections. Voilà. Qu'est-ce que ça provoque, ça? Ça provoque souvent des assemblées, des parlements assez éclatés puisque les petits partis ont intérêt à se présenter puisque même avec un petit score, vous avez des députés. Donc il n'y a pas d'alliance entre les États, il y a des partis qui sont souvent moins gros puisque chaque petit parti, entre guillemets, peut être représenté ou parti moyen, eh ben, il y a beaucoup de formations et vous avez des assemblées, des parlements assez éclatés. Donc c'est politique dans ces pays-là, l'Allemagne par exemple, ou Israël, régime parlementaire, ne sont pas forcément plus vertueux que les nôtres. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que de toute façon, un parti n'a quasiment jamais de majorité.
Donc, faut pas dire qu'ils sont plus vertueux que nous, ou ils sont formidables, les Allemands, ou que sais-je. Non, ils ont pas le choix. Le régime politique fait que, de toute façon, il y a quasiment jamais un parti qui a la majorité. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Voilà. Donc, nous, notre système, il n'est pas celui-là. Le constituant de la 5e, celui qui a pensé la 5e République, le général de Gaulle et ses amis, eux, ils partaient d'un constat, juste ou erroné, c'est pas à moi de le dire, qui disait, on sort de la 3e République, on sort de la 4e République, c'est un régime parlementaire, c'était le bordel, c'était la chienlit, dit le général de Gaulle, il y a une instabilité politique incroyable, ce sont les partis qui dirigent la France, régime parlementaire, voilà. Et ils n'arrêtent pas ces partis de faire des accords entre eux, de se déchirer ensuite, de refaire un accord. Les gouvernements tombent les uns après les autres. Instabilité politique, instabilité ministérielle. Et du coup, ben, l'exécutif, les gouvernements restent assez peu longtemps au pouvoir et ils n'ont pas le temps de mettre en place des politiques. Voilà. Donc, c'était un peu. Donc, De Gaulle ne voulait pas de ça. Et donc, par réaction, il dit, moi, je vais fabriquer un système institutionnel et constitutionnel en réaction à ça avec des outils pour fabriquer, créer des exécutifs stables. Vous avez vu regardez le graphique qu'on a vu tout à l'heure dans Le Monde. Regardez la durée des gouvernements au début. Ça marche au début, mais là, ça ne marche plus depuis Macron. On va voir pourquoi. Ça marche, hein ? Un gouvernement de 6 ans, des gouvernements de 3 ans, des gouvernements de même d'un an, des gouvernements de 4 ans. Bon, voilà. Il y a de la stabilité. Donc, il y a des outils qui sont très simples. Hein. Ça passe par un scrutin d'élection qui s'appelle le scrutin majoritaire notamment à deux tours, qui donne une prime aux partis qui arrivent en tête, sur les petits partis. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour un petit ou un moyen parti d'avoir des députés parce qu'il y a une prime au parti dominant. Voilà. Et le parti arrivé en tête, eh ben, il a une espèce de prime qui va avoir beaucoup plus de députés que les autres. Donc ça, c'est pas très démocratique, parce que du coup, ça ne correspond pas forcément à ces résultats réels aux élections. Mais ça crée quoi ? Ça crée de la stabilité. Hein ? Des majorités fortes pour soutenir des exécutifs. Bon. Sauf que ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que ça marchait du temps où, on va revoir le graphique, où la France, en gros, était divisée en deux camps. Pour faire simple, la droite républicaine, hein, il y avait le FN à l'époque, et le RN maintenant était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, et la gauche. Voilà. Gauche social-démocrate avec le PS et gauche communiste avec le PC. Voilà. Et donc, il y avait deux grands camps, gauche-droite. Voilà. Et une alternance depuis le début de la 5e, entre la droite et la gauche. Quand on regarde, en fait, c'était surtout la droite qui est au pouvoir, hein, si vous regardez. Et de temps en temps, la gauche qui arrivait au pouvoir. Voilà. Avec les socialistes, avec une alliance éventuellement avec les communistes et les écologistes. Bon, ça, c'est fini. La social-démocratie, le PS, bah, ne pèse plus grand-chose. Les Républicains, le LR, ancien UMP, ancien RPR, la droite traditionnelle classique, ne pèse plus grand-chose. Et vous avez de nouveaux partis qui ont émergé. L'extrême droite, hein, le FN devenu le RN qui est devenu très gros. Voilà. Et à gauche, un parti qui est venu concurrencer les socialistes, les communistes et les écologistes, LFI, la France insoumise, autour de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et en fait, donc maintenant, vous avez, et puis j'ai oublié l'essentiel, la Macronie. Alors, phénomène qui va peut-être s'éteindre avec Macron quand il va quitter le pouvoir. Mais vous avez Macron qui, à un moment, arrive à la fin du dernier mandat de Hollande. Ici, là. Cazeneuve Philippe, et qui invente un nouveau courant. Alors, est-ce que c'est un vrai parti politique ? Est-ce que c'est un vrai courant politique ? Est-ce que la Macronie est une pensée politique ? Est-ce que c'est juste un homme ? Ça, c'est un débat passionnant. Mais c'est un nouveau bloc. Fini les majorités absolues, c'est-à-dire au-delà de la moitié des députés. Fini les majorités même relatives, c'est-à-dire une quasi-majorité qui permet au cas par cas de trouver quelques députés alliés qui vont voter avec le bloc principal, les textes. Fini ça, hein. Ça a explosé en raison tout simplement de la dynamique des partis politiques et du vote des Français. C'est les Français aussi qui décident de voter pour les uns et les autres. Donc, ce système de la Ve République, dont on pensait qu'il assurait il avait des défauts. Il n'était pas très démocratique, vous l'avez compris. Il y a une espèce de prime au parti dominant, qui n'est pas très, très démocratique. Malgré ses défauts, il avait une qualité, c'était de créer une stabilité politique, gouvernementale. Eh bien, cette qualité essentielle de la Ve, on s'est rendu compte qu'elle disparaissait avec cette nouvelle donne politique. Voilà. Et là, la question que vous allez poser, c'est ben, quelle est la solution ? Alors, il y a deux types de solutions. Il y a les gens qui disent il faut changer la règle du jeu. Il faut une nouvelle constitution. Il faut une 6e République. Hein. Il faut, on entend beaucoup ça, il faut un régime parlementaire. Hein. Un régime parlementaire avec donc une proportionnelle et plus de pouvoir à l'Assemblée. Voilà. Alors ça, je peux me tromper, hein. Ça c'est qu'une analyse. Hein. Ce n'est pas un fait. Je ne pense pas que ce soit la solution et je m'explique. Aujourd'hui, notre gouvernement, en gros, notre pays est ingouvernable, c'est-à-dire incapable de trouver un gouvernement qui puisse durer un petit peu. On est même sans budget, là, parce qu'on n'a pas de majorité pour le soutenir. Demain, si on passe à un régime parlementaire avec régime proportionnel, la situation éclatée à l'Assemblée elle va être encore plus éclatée. Ah bah oui, régime proportionnel, encore moins de primes aux gros partis, et là, vous allez avoir... Plein de petits et moyens partis qui vont pouvoir être représentés et un émiettement encore plus important du paysage politique à l'Assemblée. Pour aller trouver une majorité avec ça, ça ne va pas être plus simple, ça va être plus compliqué. Alors, soyons optimistes, créons un régime full parlementaire et faisons confiance à l'intelligence des politiques qui vont constater que ben, comme ils sont de plus en plus petits tous, eh bien, il faut qu'ils s'accordent, qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent pour former coalition. Voilà. Il y a des coalitions de gouvernement pour soutenir un gouvernement. Donc là, c'est sympa, mais c'est très optimiste. Moi, mon analyse aujourd'hui, c'est que les partis pourraient déjà le faire aujourd'hui. Hein ? Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité absolue pour soutenir un gouvernement. Les partis devraient, s'ils avaient... s'il faisait montre d'intelligence ou de préoccupation de l'intérêt collectif, les partis devraient déjà, les groupes parlementaires devraient déjà se réunir autour d'une table en disant « Bon les gars, c'est peut-être ce qu'ils vont faire dans quelques années, je ne sais pas. » Se parler en disant « Bon les gars, ça ne marche plus l'histoire, donc toi, tu n'es pas assez puissant pour soutenir un gouvernement, toi non plus, bon. Alors essayons de se parler et voyons avec qui on peut s'entendre, s'accorder pour soutenir un gouvernement. » Voilà. C'est pas ce que je vois. C'est pas ce à quoi j'assiste aujourd'hui. Voilà. Pourquoi ils le feraient demain ? Pourquoi ils le feraient demain s'ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui ? Donc, mon analyse, mais je peux me tromper, c'est qu'un changement de règle du jeu ne suffit pas. C'est un changement de mentalité qu'il nous faut. Voilà. Il faut que, les politiques acceptent que la donne a changé et il faut passer à autre chose. Voilà. Alors après, arrivent les problèmes. Attention, hein, c'est pas terminé. Si on se dirige vers ça, un système, celui actuel ou demain un régime parlementaire où les partis doivent se parler et s'entendre, encore faut-il qu'ils réussissent à s'entendre. Hein, y compris quand ils arrivent au pouvoir. L'exemple allemand est extrêmement intéressant. Vous avez en Allemagne, l'Allemagne qui est souvent citée en exemple par les gens qui veulent un régime parlementaire, vous avez une coalition au pouvoir, aux dernières élections législatives, formée du SPD, donc les sociaux-démocrates, des libéraux, et des écologistes. Voilà. Constatant qu'ils ne pouvaient pas avoir de majorité suffisamment les uns les autres, ils sont alliés pour former une coalition dite de gouvernement, des discussions qui ont duré des mois, et à un moment, ils ont trouvé un programme de gouvernement, ils sont allés aux élections, ils ont gagné les élections, et ils se sont mis à gouverner ensemble. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pu se blairer. Très très vite, les tensions sont apparues entre ces trois partis, ça a été un enfer, et la coalition vient d'exploser. Voilà, c'est une catastrophe. Et il y a de nouvelles élections qui arrivent bientôt, donc les Allemands, aujourd'hui, ce n'est pas tellement un modèle pour nous non plus. Voilà. Donc le régime parlementaire n'est pas la panacée, ça n'est pas la règle du jeu qui est la panacée. La clé du truc, c'est le comportement des élus, le comportement des politiques, le sens de la responsabilité et de l'intérêt commun. Voilà. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a un problème à ce niveau-là aujourd'hui et que... on a un problème de qualité de ce personnel politique, voilà, qui n'est pas forcément à la hauteur de la crise que nous traversons. Voilà. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais non, c'est pas un problème de corruption. Non, c'est juste, ils sont juste mauvais. Et où ces machines-là ? La corruption, c'est quand tu acceptes de l'argent pour faire mal ton travail. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Je crois qu'ils font mal leur travail tout court. Merci Darwinus. Merci Lord Drogo. Merci Sur la route du monde. Merci Silverus Maxo. Merci Exotique. Merci Captain Martus à l'instant. Eh bien, on n'est pas dans la merde. Si, si, on est dans la merde. Mais moi, je suis optimiste. À un moment, cette situation, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Enfin, tout le monde peut la constater. Hein, tout le monde est en train de constater, vous, moi, les médias, certains en tout cas, les politiques, cette situation. Et donc, à un moment, on va devoir trouver des solutions. On va devoir trouver des solutions. À moins que chacun ne pense qu'à son intérêt individuel, à son ego, et qu'on s'en fiche finalement de l'intérêt du pays. Mais j'ai la faiblesse de penser que quand on s'engage en politique, eh bien c'est parce qu'on se soucie de l'intérêt du pays. Voilà. Alors si on en est là, que les gens que nous avons élus, que la majorité des gens que nous avons élus, que la majorité de nos représentants politiques n'en ont rien à carrer de l'intérêt du pays, alors là, effectivement, il n'y a plus rien à faire, quoi. Salut mon Hugo, t'as dû passer une super journée, non ? Alors, arrête de parler, Samuel, tu es bien bavard. Attends, j'ai des messages trop... Alors, pardon, vos messages sont intéressants. Hein ? Et allons voir les articles, allons voir les journaux. Samuel, ton téléphone sonne, Macron a besoin de toi. Mais pire métier ever, les gars. Pire métier ever. Je n'ai pas le talent, je n'ai pas les qualités pour être un élu, pour être un... Ah, c'est un métier de chien. Hein. Je ne sais pas pourquoi ces gars ou ces femmes font ça. Moi, est-ce que c'est le sens du collectif, c'est le sens du commun ? Est-ce que c'est des gens qui veulent œuvrer pour le bien du pays, une espèce de saint, de chevalier saint, voilà, qui s'engagent pour le bien commun ? Est-ce que c'est ça qui les motive ? Est-ce que c'est une question d'ego, de goût du pouvoir ? Je ne sais pas, je suis pas dans... La thunasse, ça rapporte rien, c'est nul. Oh non, vaut mieux être streamer, vaut mieux être créateur de contenu. La thune ? Non. Non, je pense que c'est un truc de pouvoir, bien sûr. Non, Macron, par exemple, pour prendre que son exemple, il aurait pu se faire mille fois plus de caillasse s'il avait bossé dans le privé. Non, l'argent, oubliez l'argent. C'est pas ça qui les fait marcher. Non. Bon, la soupe est bonne, hein. Je dis pas que c'est pas inconfortable. Il y a des petits intérêts et tout. Franchement, vaut mieux être streamer. Hein. Vaut mieux être streamer. Donc c'est pas l'argent, je crois pas. Non, le pouvoir, l'ego, ouais. Ou alors pour les meilleurs d'entre eux, oui, le sens de l'engagement, du collectif, de l'intérêt commun. Voilà. Je suis en train de voir les journaux. Donc qu'est-ce qui est sorti là ? Prestige, le pouvoir, ouais. Ouais. Non, la thune, oubliez, c'est pas la thune. Hein. Non, vaut mieux aller sur TikTok. Hein. Sarkozy avec ses conférences à 200K se met bien là quand même. Mais il fait plus de politique, Sarkozy. Il est malin. Il veut pas revenir au pouvoir. Sarkozy, il a compris que justement, bah lui, il s'est dit, allez, maintenant, je vais faire un peu de caillasse, quoi. 200, il fait 200K par conférence, ça me paraît beaucoup. Peut-être. Merci Captain Martus, merci Rhapsody Indo à l'instant. T'inquiète, on va tous en sortir, Rhapsody. Alors, Le Parisien n'est pas sorti, c'est pas grave. Voilà, on va aller voir Libération. Libération, il va finir par sortir. Ah ! On a Libération. Voilà. Tout à l'heure, on avait la une de Libération. Maintenant, on a Libération. La Libération de demain, il est sorti. Voilà. Veni, vidi, viré. Voilà. Et regardez, on a le Libé de demain. Il est 22h18. Hein, certains vont attendre de l'avoir dans leur boîte aux lettres ou au kiosque demain matin. Nous, on l'a. Censure, mission... Oh, pardon. Motion accomplie. Voilà. Joli titre. Après une après-midi de prise de parole à l'Assemblée entre attaques, faux-semblants et rumeurs, les députés ont renversé mercredi le gouvernement avec 331 voix, bien plus que la majorité absolue, une première depuis 62 ans. Édito. Qu'est-ce que c'est un édito ? Qu'est-ce que c'est un éditorial ? C'est un article où le journaliste donne son avis, donne son opinion. Il n'est pas sur juste la présentation des faits, il va beaucoup plus loin et il donne son avis et il vous dit « Attention, c'est un édito, c'est juste mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ». Alexandra Schwarzbord, excellente éditorialiste de Libération, écrit un édito dont le titre, vous le voyez, est « Erreur ». Et si elle s'était trompée ? Et si cette décision de censurer le gouvernement Barnier, prise en quelques dizaines de minutes, rapportons-nous, était une des plus mauvaises décisions politiques arrêtées par Marine Le Pen ? Tiens, intéressant. Objectivement, Michel Barnier était pour elle le Premier ministre idéal. Il assurait le sale boulot, elle levait le pouce ou la baissait, faisant et défaisant à sa guise la feuille de route qu'il s'était fixée. Donc là, rappelons qu'effectivement, Marine Le Pen avait obtenu beaucoup de concessions de Michel Barnier dans le budget à venir, c'est vrai. Dès son entrée en fonction, l'ancien négociateur du Brexit avait fait savoir qu'il comptait entretenir les meilleures relations avec elle. C'est vrai, mais il avait compris qu'il avait besoin tout simplement des voix du RN, en tout cas que le RN ne vote pas la motion de censure, il n'avait pas tellement le choix. N'hésitons pas si besoin à l'appeler personnellement pour désamorcer une crise. Des prévenances qu'il n'a jamais eues pour la gauche, c'est pas faux. Elle était en quelque sorte le vrai Premier ministre, dictant ses conditions et toisant du haut de son banc de l'Assemblée les ministres envoyés à Canossa. Et Barnier, qui est un bon gars, écrit Libération, a cru que ce jeu-là allait durer assez longtemps pour que chacun y trouve son compte. Grossière erreur. Oui, peut-être que Barnier a été un peu trop optimiste. Il n'a pas perçu assez tôt à quel point il était dans sa main, elle lui réclamerait toujours davantage. Elle n'a pas compris qu'à trop l'humilier, elle risquait de le braquer. Fragilisée par son procès, Marine Le Pen, elle a un procès sur le dos, hein, pour emploi fictif au Parlement européen, qui pourrait faire qu'elle devienne inéligible à la prochaine présidentielle. Là, en ce moment, on peut penser que Marine Le Pen, elle est très heureuse, très satisfaite de ce qui se passe. N'oublions pas qu'elle a une épée de Damoclès judiciaire sur le dos qui ferait qu'elle pourrait ne pas être éligible à la prochaine présidentielle. Elle qui rêve d'arriver à l'Élysée, c'est quand même lourd. Fragilisée par son procès, donc, et par le risque d'inéligibilité qui pèse sur elle, elle, Marine Le Pen, a joué le chaos. Sa base le lui réclamait, certes, hein, les militants, les électeurs du RN étaient plutôt OK pour virer le gouvernement, mais sa base ne lui suffira pas pour accéder à l'Élysée. Marine Le Pen aura besoin de tous les indécis ou tous les électeurs de droite déçus par LR, sensibles à l'image respectable qu'elle cherche à se forger depuis des années. Et en votant la censure, la chef du RN revient à ses premiers amours anti-système, premières amours d'ailleurs, anti-système, et risque de perdre ces électeurs-là. Dans un contexte international déjà extrêmement préoccupant, précipité à la veille des fêtes de fin d'année, le pays dans une nouvelle période d'incertitude politique, économique et financière risque aussi d'être très impopulaire et de laisser des traces. C'est une analyse. Pas forcément juste. Voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion. L'analyse qui, ici, qui est celle d'Alexandra Schwarzbrod, qui est un petit peu celle de la Macronie, d'ailleurs, par ailleurs, même si Alexandra Schwarzbrod n'est absolument pas une journaliste macroniste. C'est Marine Le Pen, en fait, elle a gagné une bataille, mais elle vient de perdre la guerre. C'est-à-dire que ces électeurs de demain, pas les électeurs d'extrême droite pure et dure, pas les militants du RN, pas les gens qui votent toujours pour elle, mais ceux dont elle va avoir besoin pour les prochaines élections pour arriver au pouvoir. Ces gens-là, on va dire les plus modérés de son électorat, ou les gens actuellement qui sont encore chez LR, voire à la Macronie, ou voire même à gauche, hein, puisqu'il y a une grosse partie des électeurs du RN qui anciennement ont voté à gauche, eh bien, peut-être que ces électeurs-là vont se dire « Ah, mais en fait, Marine Le Pen, c'est pas le camp de la stabilité, c'est pas le camp de la respectabilité, c'est pas le camp de la responsabilité, c'est le camp du bordel permanent. La preuve, il y avait un gouvernement avec une mission impossible, tellement il n'était pas soutenu par aucune majorité. Elle a débarqué sans savoir ce qui allait se passer après. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après? On n'en a aucune idée. Et c'est pas le RN qui a la solution non plus. Hein. Ça, c'est l'analyse de Libération ce matin, enfin demain matin. C'est aussi l'analyse de l'Élysée, qui compte sur une boulette de Marine Le Pen, là, à ce sujet. Je ne suis pas sûr que ce qui vient de se passer dissuade beaucoup de gens de voter RN demain. Moi, je n'en suis pas sûr. Bon, on verra aux prochaines élections. Voilà. Voilà, on a un gros article là, sur ce qui s'est passé cet après-midi. Sur Barnier, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Voilà, le grand pari de Marine Le Pen, c'est toujours la même idée qui est développée ici. PS et LFI unis dans la censure, divisés sur le futur. C'est le fait, on pourra en parler si vous voulez ce soir, que la gauche est divisée sur ce qu'il faut faire demain. Hein, je fais simple. Côté PS, notamment, on aimerait bien arriver au gouvernement. Hein, rappelons que le NFT, le nouveau Front Populaire, le NFP, est en capacité peut-être de soutenir un gouvernement demain. Ils n'ont pas ses députés, hein, mais peut-être avec des alliances avec des députés du centre, voilà, ou de la Macronie. Donc il y a des gens au PS qui disent il faut que Macron nomme un Premier ministre de gauche ou socialiste. Voilà.
Oui. Voilà, puis avec en gros une coalition ou un accord de non-agression avec des députés du centre, voilà, ou de la Macronie. Voilà. Ça, c'est un petit peu le souhait des socialistes. Puis du côté de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout ça qu'on veut. Mélenchon, il dit très clairement, ah non, 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 moi, ma piste aujourd'hui, c'est la démission du président Macron. Il faut que Macron démissionne. Voilà. Il faut que Macron démissionne. Aller à Matignon dans ce contexte-là, avec un gouvernement qui va sans doute pas durer très longtemps, bah, tu m'étonnes. C'est pas intéressant. Et donc, Mélenchon fait le calcul qu'il faut plutôt obtenir une nouvelle présidentielle et une démission de Macron. Deux questions. Est-ce que Emmanuel Macron veut démissionner? Pourquoi il démissionnerait? La Constitution le protège jusqu'à la fin de son quinquennat. Il n'a aucune raison de démissionner aujourd'hui. Je peux me tromper. Hein. Pourquoi il démissionnerait? La Constitution ne lui oblige pas. Il partirait sur un échec. C'est-à-dire que, comme Marine Le Pen réclame sa tête, comme Jean-Luc Mélenchon réclame sa tête, accepter de démissionner aujourd'hui, ce serait dire, ok, je cède à l'injonction de l'opposition, j'ai merdé, je suis nul, voilà, j'ai foutu le dawa, et donc, ok, vous avez raison, je me barre. Voilà. Donc, il n'a pas de raison juridique constitutionnelle de le faire, rien ne lui oblige. Deux, ce serait céder à l'opposition, donc il rentrerait dans l'histoire comme le mec à un moment qui a tellement failli, qui a tellement été mauvais qu'il l'a reconnu et qui s'est barré. Alors qu'en gros, je sais pas, moi, il lui reste combien de temps de quinquennat là, 2027, il lui reste trois bonnes années, 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi pour se refaire. Hein, comme un mec qui joue à Valo, qui enchaîne les loses et qui veut jamais s'arrêter de jouer et qui dit, mais c'est pas grave, la prochaine je la gagne, je vais me reprendre du RR. Voilà. C'est 2 ans et demi, c'est pas 3 ans et demi. Bon, 2 ans et demi. Vous voyez, mais il a plus qu'une nuit pour se refaire sur Valo, il a 2 ans et demi pour se refaire. Donc, un, rien ne lui oblige. Deux, ce serait céder à la pression de l'opposition. Trois, le mec, il peut se refaire les 2 ans et demi. En politique, les perdants d'hier sont les gagnants de demain. Hein, vous avez des hommes politiques qui sont plus bas que bas et qui arrivent à se refaire. Et à l'inverse, des gens qui sont portés au pinacle et qui, quelques mois plus tard, quelques années, sont les pires losers ever, quoi. Donc, voilà, il peut penser qu'il va se refaire. Voilà. Donc, je n'imagine pas que Macron va démissionner. Mais je peux me tromper. Peut-être que demain soir, Macron annonce sa démission. C'est de la politique, tout est possible. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Donc, quand Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon aspirent à la démission de Macron, je me dis, pourquoi ils le feraient? Deuxième question. Imaginons que Macron démissionne aujourd'hui. Ok? On organise une présidentielle dans la foulée, je sais pas, imaginons des élections en janvier. Là. Et donc, on élit un nouveau président, une nouvelle présidente. Je sais pas qui, moi. Donc, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je sais pas. Bon. Vous allez me dire, bon, ça règle tout. Ben non, ça règle rien. Pourquoi? les habitués, vous connaissez la réponse. Pourquoi ça change rien? Ben parce qu'il a toujours la même assemblée. Il a toujours pas de majorité. Voilà. Merci beaucoup, Foie Jaune. L'assemblée reste la même. Le cool-down, hein, l'ult, la dissolution du président de l'Assemblée, le cool-down dure pendant 1 an, même s'il y a un nouveau président, une nouvelle présidente. Il faut attendre juillet prochain. Donc imaginons Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ou qui sais-je, Samuel Etienne, président de la République, en janvier. Il est coincé jusqu'en juillet. Donc le mec, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà, où le mec, il va essayer, ou la fille, je sais pas moi, il va essayer de former des gouvernements, nommer des premiers ministres, qui vont jamais tenir, parce qu'il n'y a pas les députés, et donc ça va être motion de censure sur motion de censure, démission sur démission, bordel sur bordel, voilà le début de la présidence. Hein. Et à un moment, les Français vont se retourner vers, je sais pas moi, donc Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Samuel Etienne, je sais pas qui sera élu, en disant, mais en fait, que de la merde. Tu nous as demandé de voter pour toi, mais en fait, c'est encore pire qu'avant, quoi. Donc, non. Donc, je comprends pas bien pourquoi Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen demandent la démission du président Macron. Ça n'a aucun sens. Voilà. À partir de juillet, ça aura du sens. À partir de juillet, ça aura du sens. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne crois pas que la démission du président Macron soit
une solution pour la France, en tout cas avant le mois de juillet. Voilà. S'il n'y a pas de 49.3, il n'y a pas de motion de censure. Ogide, fais un effort, Ogide. 33. À ton avis, pourquoi le gouvernement Barnier a utilisé le 49.3 ? Il ne s'est pas réveillé le matin en disant « Tiens, une petite envie de 49.3 ». Il utilise le 49.3 parce qu'il n'a pas de majorité. Parce qu'aucun gouvernement aujourd'hui ne peut avoir aucune majorité, de quelle qu'elle soit, tellement l'Assemblée est éclatée. Voilà. Donc il utilise le 49.3 parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. Tu m'étonnes qu'il aurait voulu faire passer le budget sans 49.3. Il aurait même pu s'en vanter, vous vous rendez compte ? Hein ? Malgré une Assemblée divisée, voilà, malgré un gouvernement de droite, c'est un gouvernement de droite, hein, alors que c'est... que les deux partis arrivaient en tête aux législatives, c'est la gauche et le RN, j'ai réussi à faire voter un budget sans passer par le 49.3. Il aurait été très heureux. Mais c'est juste impossible. Voilà. Et donc, les gouvernements qui arriveraient demain avec les mêmes assemblées, je ne vois pas comment ils pourraient réussir à faire passer un budget sans 49.3. Voilà. Trouver des compromis, bah, c'est ce que vient de faire Michel Barnier. Et là, il voulait trouver 60 millions d'euros d'économie pour ce budget. Hein, puisque l'état des finances publiques est un peu catastrophique. Et donc, il n'a pas arrêté de faire de compromis. Il a lâché de l'argent ici et là. Marine Le Pen lui a demandé plein de concessions sur plein de sujets. Et en fait, les 60 milliards d'économies sont devenus 20-30 milliards d'économies. Les concessions, elles étaient là. Voilà. Mais j'ai dit millions, c'est milliards. Et donc, Michel Barnier, il dit, mais je ne comprends pas, les concessions, je les ai faites. D'ailleurs, Michel Barnier, aujourd'hui, il dit, mais l'irresponsable dans l'affaire, c'est Marine Le Pen. Parce que moi, j'ai fait des concessions. Les concessions, elles ont été faites par Barnier. Et ça n'a pas suffi. Voilà. Il va se passer pourquoi, du coup, pour le budget, quoi ? Ben, Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. C'est très intéressant. Les médias parlent d'un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Mystère autour du devenir des textes budgétaires. C'est intéressant, ça. Tiens, regardez. Voici un article au cœur de tous nos échanges. Quand je vous dis, merci Big Bass BZH, quand je vous dis, la clé, c'est le comportement des politiques, le comportement des partis. Ce n'est pas une question de règle du jeu. C'est une question de responsabilité des partis. Voilà, on est d'accord pour dire que actuellement, globalement, nos acteurs politiques ne sont pas très, très, très responsables, quoi. Là, on a joué un politologue qui s'appelle Rémi Lefebvre, que je ne connais pas, et dont le titre de l'interview, c'est « Les partis apparaissent à la fois comme la solution et le problème ». Alors, je ne sais pas s'il va dans mon sens, on va lire cet article que je découvre. Le politologue Rémi Lefebvre rappelle que la culture du compromis, c'est exactement ce dont on parle, qui cogne avec les intérêts boutiqués des formations politiques, mais aussi avec une opinion très polarisée, pourrait progresser à la faveur de la crise. La culture du compromis pourrait progresser à la faveur de la crise. Ça, c'est le volet un peu optimiste. Un réflexe de responsabilité aurait-il pu sauver Michel Barnier d'une probable inéluctable démission ? C'est ce que le Premier ministre a formulé mardi soir sur France 2 et TF1 à la veille du vote de la motion de censure. Quelle responsabilité les partis, qui se renvoient chacun la patate chaude, portent-ils dans cette crise ? Pour le politologue Rémi Lefebvre, leur refus du compromis risque d'accroître leur discrédit, mais l'inverse aurait sans doute eu le même effet. Oh là là, quel bordel. Michel Barnier a été présenté comme l'homme du compromis et du dialogue. Qu'est-ce qui lui a fait défaut ? Question à ce politologue. Il répond, Michel Barnier avait certes des dispositions à la négociation et au consensus. Rappelons que c'est lui qui a négocié l'accord du Brexit entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. C'est un élu local avec un côté vieux sage. Fort de son expérience du Brexit, il avait les compétences requises pour l'exercice redoutable qu'est la constitution d'une majorité. Mais il n'a pas eu l'accord préalable du côté du socle commun. Le socle commun, c'est une espèce d'alliance des macronistes et de la droite, pour faire simple, enfin de certains éléments de la droite. Il disposait d'une légitimité d'une majorité fragile, ok, et il devait en plus chercher à l'élargir. Mission impossible. Pardon. L'exercice était impossible. Bon, c'est ce que je disais. Cette séquence est le fruit d'une conjonction et d'un clash entre une impasse institutionnelle et politique. Et sans doute le pire contexte budgétaire de l'histoire de la 5e. Bon, les caisses sont vides, on n'a plus trop d'argent. A-t-on raté une occasion de mettre en œuvre le parlementarisme souhaité par beaucoup ? Quelqu'un ? Merci MMG pour Pédiavenir, je n'ai même pas relevé. Il y a des messages dans le chat qui ne méritent pas d'être relevés. Il y a des gens qui vont citer des, des, des comptes parodiques d'infos dans le chat. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça au premier degré. Faites pas ça, les gars. C'est déjà très compliqué de réussir à déterminer qu'il y a une source de qualité. Les gens qui font des copier-coller de sites parodiques d'infos dans le chat, voilà, qui pourraient être pris premier degré par des gens, ou pire, des gens qui font ces copier-coller pensant que c'est des infos, parce qu'en fait, ils comprennent rien à rien, c'est un peu gravissime. C'est comme ça que progresse la désinformation. A-t-on raté une occasion de mettre en œuvre le parlementarisme souhaité par beaucoup, hein ? J'entends beaucoup ça, moi. Bah, il faut une nouvelle constitution, les gars. Il faut une nouvelle règle du jeu. Puis ça va tout régler. Alors, le politologue répond, j'en suis pas sûr. Ce qui aurait pu avoir lieu n'a pas eu lieu, mais c'était prévisible. La culture du compromis est faible en France. En partie car depuis 2002, nous avons été habitués à une alternance de majorité absolue. Hein, il y a eu une injonction paradoxale au compromis avec trois blocs plutôt homogènes, irréconciliables, élus sur la proportionnelle qui, elle, aurait pu favoriser le compromis. En réalité, aucune force politique n'y avait intérêt. Chacune avait trop à perdre politiquement, soit parce qu'elles sont guidées par des arrière-pensées présidentielles, soit par fidélité à leur électorat. La crise de confiance démocratique que nous traversons vient en grande partie du sentiment d'une insincérité des élites que des compromis peuvent exacerber. Une culture du compromis ne se décrète pas, elle va peut-être progresser, car ce n'est qu'en s'enfonçant dans la crise qu'on peut, peu à peu, en tirer les leçons. Ça, c'est le côté optimiste. Barnier ne cesse d'appeler à la responsabilité des partis, et une bataille de l'opinion s'annonce pour imputer à l'autre la responsabilité de ce chaos, chaos auquel LFI et RN ont tout intérêt. Voilà. Les socialistes ont proposé un gouvernement de compromis, c'est vrai. Peut-être va-t-on s'y diriger. Après, le LFI ne sont pas du tout d'accord avec ça. Tout occupés à faire chuter le gouvernement, les partis, notamment de gauche, vont-ils sortir grandis de cette séquence ? La situation est catastrophique pour le crédit envers les institutions politiques. La défiance s'accroît envers un régime démocratique démonétisé, discrédité, notamment chez les plus éloignés de la vie politique. Cette séquence va renforcer l'idée que les partis ne s'intéressent qu'à leurs intérêts boutiquiers. Les appels à la responsabilité ne fonctionnent pas car l'opinion polarisée est attachée à défendre ses idées. Hein ? Peut-être que les partis ne sont que le reflet aussi de ce que les électeurs pensent. Hein. J'ai raison, les autres ont tort. Voilà. N'écoutons pas les autres. Pourquoi se mettre autour du table ? De toute façon, c'est des gros cons. Voilà. Une partie des électeurs eux-mêmes ne veulent pas de compromis. Les partis apparaissent à la fois comme la solution et le problème, comme les maîtres du jeu. Hein, la solution peut venir des partis, alors qu'ils n'ont jamais été aussi faibles numériquement par la masse de leurs militants et sympathisants et du point de vue de la légitimité dans l'opinion. C'est très pessimiste qu'on est là. Moi, je vous dis, les politiques peuvent être la solution si subitement ils deviennent responsables et décident de se mettre à discuter autour d'une table pour trouver des solutions. Voilà, je sais pas, des coalitions. Et là, ce monsieur nous dit, ouais, mais les partis sont tellement affaiblis aujourd'hui en termes de militants et du point de vue de la légitimité qu'ils ne sont pas les mieux placés pour le faire. Le paysage politique est très fragmenté avec 11 groupes parlementaires, ce qui est un record, tant au niveau du bloc central que dans le camp de la gauche ou même à droite côté républicain. Cet état de décomposition renforce la défiance et la déliquescence des partis et rend la situation ingouvernable. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la domination entraîne une impuissance. Ah, je vais directement à la fin, ça m'intéresse. Quelle piste pourrait se dessiner pour sortir de cette impasse ? L'hypothèse qu'une nouvelle dissolution débloque la situation n'a rien d'automatique. Ça, ce sera en juillet. Il n'y a aucune raison que les trois blocs stables ne bougent. Deuxième option, qu'un compromis se dessine sans LFI et sans le RN. Mais est-il raisonnable d'imaginer qu'un accord se forme incluant, si on enlève le RN et LFI, qu'est-ce qui reste ? Écologistes, socialistes, macronistes, voire une partie des républicains. Est-ce raisonnable ? Demande le monsieur. Je vois mal quelle serait sa marge de manœuvre si ce n'est pour gérer les affaires courantes dans un contexte économique extrêmement tendu. Et alors que le retour de Trump va entraîner des questions stratégiques importantes au niveau européen. Bon. Reste enfin l'option d'une démission du président. Merci JK. Cela ne garantirait en rien un déblocage, mais c'est de plus en plus crédible à mesure que Macron est lâché par ses soutiens. Les appels à la démission ne sont plus l'apanage des extrêmes, mais se font aussi entendre du côté de Jean-François Copé, Charles de Courson ou David Lisnard, c'est le maire de Cannes, quoi, LR, des personnalités moins radicales. Même Édouard Philippe a évoqué la possibilité d'élections anticipées. Je ne vois pas comment Macron pourrait s'en sortir. Bon, ça c'est intéressant, en tout cas à partir de juillet. Parce que s'il n'y a pas de solution possible, la démission du président n'a aucun intérêt, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Bon, on est bien dans la merde, quoi.
Ça, c'est la lecture de Libé. Peut-être qu'on va, on va aller voir d'autres journaux.
Quid du gouvernement technique? Ouais, question de ESPA. C'est quoi un gouvernement technique? Un gouvernement technique, c'est un gouvernement supposément sans couleur politique. On ne nomme pas un ministre de droite ou de gauche. On nomme des ministres techniciens, spécialistes, de questions, voilà, ou des gens qui sont bons dans leur truc. Et on leur dit, bah, tiens, toi, tu n'as pas, de couleur politique, donc ça tombe bien, parce qu'en ce moment, c'est pas très très clair. Et tu vas t'entourer de ministres qui n'ont pas de couleur politique, ce qu'on appelle des techniciens, des gens de la société civile, je sais pas, des économistes, des scientifiques, des hauts fonctionnaires. Voilà. Il y a le gouverneur de la Banque de France, je ne sais plus comment il s'appelle, quelqu'un comme ça. Ça ne veut rien dire. Mon rêve. Mais non, les gars, vous ne faites pas avoir, c'est complètement faux. C'est du pipeau, ça. Quelqu'un sans couleur politique, ça n'existe pas. Tous ces hauts fonctionnaires, scientifiques, économistes, que sais-je, ils ont tous une couleur politique. Ils ont tous une sensibilité politique. Et c'est les gens qui votent, c'est les gens qui ont des idées, qui ont des valeurs. Voilà. Et en fait, soi-disant, sous couvert de gouvernement technique, ben en fait, vous verrez que si Macron, demain, nomme un gouvernement technique, dès le lendemain, les médias et puis les partis politiques, qui vont être du coup être mis de côté, hein, vont dire « Ah mais c'est pas vrai hein. !» Lui, là, le monsieur, là, le gouverneur de la Banque de France, là, soi-disant sans appartenance politique, la politique qu'il propose, c'est une politique totalement libérale. Hein. C'est une politique de droite, ça. Ou l'inverse, en disant « Dis donc, le scientifique que vous avez nommé, là, mais soi-disant apolitique, mais pas du tout. Regardez les mesures qu'il propose, regardez ses prises de position. Ben, lui, c'est un pur gauchiste. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Voilà. » le gouvernement technique. Voilà. Je crois pas trop. Un scientifique reste quand même plus objectif. Bien sûr, Daframi. Hein, il est bien connu que tous les scientifiques sont d'accord entre eux hein, pour les explications sur tel ou tel phénomène et que les scientifiques sont toujours d'accord entre eux sur tel ou tel sujet et que jamais ils n'ont d'avis sur des questions. Quoi. Voilà. Il est bien connu aussi que les scientifiques ne se trompent jamais, que les spécialistes de tel ou tel sujet ne se trompent jamais, que les économistes... prenons les économistes. Les économistes, ce sont des spécialistes. Hein, voilà. De tel ou tel sujet. Bon, bah, regardez sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour un pays comme la France pour arranger les choses. Bah, hein, les journaux régulièrement vous proposent des tribunes avec deux économistes qui proposent des solutions radicalement opposées. Alors, lequel économiste vous choisissez? Hein, votre fameux expert indépendant, là. Bah, moi, en matière d'économie, je vais vous en trouver des totalement opposés. Vous allez prendre lequel? Vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas de gouvernement technique. Il a dit scientifique, pas économiste. Mais c'est pareil. Quoi, vous, attends, je n'ai pas compris. Vous voulez chercher, vous voulez nommer des biologistes à la tête du pays? Vous voulez nommer des médailles Fields? Des spécialistes de maths? Quand vous dites scientifique, vous pensez scientifique? Des physiciens? Vous voulez nommer Cédric Villani à Matignon? Vous voulez nommer, un chimiste? Voilà. Mais pourquoi il serait meilleur? Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est une illusion, en fait, de penser qu'un gouvernement de techniciens, c'est-à-dire de gens soi-disant pas impliqués en politique, puisse être la solution. Parce qu'il acceptera d'avoir tort. Hein ? Quoi ? Ok. Alors nommez-moi, alors jouons à ce jeu. Nommez-moi les partisans d'un gouvernement technique, un nom d'un premier ministre technique, voilà, qui va recueillir l'assentiment du chat pour montrer que c'est la bonne idée. Allez, donnez-moi un nom. Albert Einstein, il est mort. ChatGPT, non, c'est pas possible. Nabila, non. Zerator, Jamie Gourmet, non. En fait, voyez, vous en rigolez parce qu'en fait, vous allez voir, il y a aucun nom qui va sortir. Jean-Claude Van Damme, non. Voilà. Lucie Castet, c'est une techno. Castex aussi l'était. Foi jaune, c'est quoi ta proposition? Tu veux qu'on mette Jean Castex, Premier ministre? Je crois que ça va pas marcher. Lucie Castet, la gauche n'en veut plus. Hein. Les socialistes ont dit non, ce serait pas possible. Et LFI, pour eux, c'est plus une solution. Alors, Mbappé, Blanquer, ok, Marc Lesguy, Villepin, c'est un technicien, Villepin. C'est marrant, je crois que c'était un politique. Alors, c'est Thomas Pesquet, Étienne Klein. Alors, j'ai un nom qui revient beaucoup, c'est Jean-Marc Jancovici. Alors, voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, on va aller voir. Alors, voilà, un des noms, les gens qui participent sérieusement au débat, qui me disent qu'un gouvernement technique, c'est une bonne idée, Jean-Marc Jancovici. Voilà. Alors, donc, on est d'accord, c'est un technicien, donc il n'y a pas de couleur politique. Hein, c'est ça la définition d'un technicien. Le gouvernement technique, c'est un gouvernement qui n'a pas de couleur politique. Voilà. Donc, il a pas de couleur politique. C'est ça ? Hein ? Voilà, je connais pas très très bien. Let's go. Donc, c'est un ingénieur, enseignant, conférencier français. Hein ? Un diplômé de l'école polytechnique, ingénieur de l'école nationale supérieure de télécommunication, blablabla, blablabla. Bon, ça, c'est sa formation. Alors, il se fait surtout connaître par ses conférences de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes du réchauffement climatique et de la production d'énergie. Hein ? Engagé en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, très bien, en particulier dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il milite notamment pour la sobriété énergétique. Alors, la sobriété énergétique, ça, c'est une prise de position politique. Hein ? La sobriété... Militer pour la sobriété énergétique, c'est une prise de position politique. Voilà. Ça y est, on n'est déjà plus dans la technicité. Vous voyez, je ne dis pas que le mec, c'est un mauvais. Je dis juste que ça n'existe pas, un gouvernement technique. Hein ? Son opposition au renoncement à l'énergie nucléaire lui attire les crises antinucléaires. Voilà. Ah ben voilà. Selon lui, le modèle des sociétés occidentales est voué à la décroissance, donc il prône la décroissance. Eh bien, alors, que ça vous plaise ou non, prenez la décroissance, c'est une position politique. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça va provoquer des réactions pour ou contre. Donc, si vous le nommez Premier ministre, cet homme qui prône la décroissance, prenons cette hypothèse. Allons au bout de cette... Voilà, merci beaucoup, Espaf. Tout est politique, c'est ça en fait. C'est ça que je vais vous expliquer. Tout est politique. À partir du moment où vous émettez un avis, et c'est ça qu'on demande à un politique. À partir du moment où vous émettez un avis sur la direction que doit prendre un pays, c'est une orientation politique. Tout est politique. Donc, si demain, ce monsieur qui prône la décroissance arrive à Matignon et donc mène une politique en faveur de la décroissance, il va devoir trouver des soutiens à l'Assemblée, des députés qui le soutiennent. D'accord ? Des députés élus par les Français. Il va devoir trouver une majorité. Donc s'il n'arrive pas à trouver une majorité pour engager la décroissance dans un pays comme la France, eh ben, votre Jean-Marc Jancovici, il va tenir 2 jours. Donc moi, je vous dis que tout est politique, qu'un gouvernement technique, c'est une blague, parce que rien n'est technique, tout est politique. Et donc, que ce monsieur, il aura le même problème que les autres, c'est qu'il va devoir trouver une majorité. Et s'il n'y a pas une majorité pour soutenir la décroissance en France, et à mon avis... il ne trouvera pas de majorité pour soutenir une politique de décroissance, eh bien, ce monsieur va durer 2 jours. Ou 2 semaines. Ou 2 mois. Voilà. Donc, vous avez d'autres exemples ? Jacques Toubon, Xavier Niel. Des sérieuses. Non, Alexandra, c'est exprès, parce que j'aime bien ce micro en ce moment, il a un meilleur son. Le père Fourat, Samuel Etienne, je serais le pire, moi, kiné. Si demain, j'arrive à Matignon, si je deviens président de la République, je vais faire tellement du sale boulot que vous allez adorer les politiques après moi. Bayrou, tu veux que je fasse un sondage sur Bayrou, Mr. Mookie ? Thierry Breton, c'est une des pistes évoquées, ancien commissaire européen. Mon tonton René, non, je le connais, ton tonton le Flaco Verde. Il est sympa, René, mais on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, ni même ce qu'il pense. François Villeroy de Gallo. J'en ai parlé tout à l'heure, Isaac, c'est le gouverneur de la Banque de France. Vous voyez que c'est... en fait, la même manière qu'une nouvelle constitution... une nouvelle règle du jeu n'est pas la solution magique. Un gouvernement dit technique n'est pas un gouvernement magique parce que tout est politique. À partir du moment où un technicien, un scientifique, décide d'orienter le pays dans une direction plutôt qu'une autre, c'est une décision politique. La politique, ce n'est pas forcément un mauvais mot. C'est un mot noble, la politique. Vous savez, c'est quoi la politique ? La politique, c'est les affaires de la cité. La politique, c'est comment un groupe humain, qu'on va appeler une nation, un peuple, voilà, comme la France par exemple, malgré nos différences, nous sommes tous différents, mais ici on arrive à en discuter, ce qui est plutôt pas mal, on arrive à s'accorder pour vivre ensemble. C'est ça la politique. C'est comment on organise le vivre ensemble dans une communauté, alors que globalement on n'a pas les mêmes intérêts. Donc à un moment, on se réunit, on vote, et puis on décide que on va laisser le pouvoir à ceux qui ont obtenu la majorité. Sauf qu'en ce moment, il n'y a pas de majorité. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Et après, ces gens qui ont été élus, ils prennent des mesures en fonction, a priori, du mandat que les électeurs leur ont donné. Et ils essayent de faire avancer le pays dans une direction plutôt qu'une autre. La politique, c'est ça. C'est plutôt noble, en vrai. Voilà. Ça devrait être ça. Sauf que ce n'est pas toujours ça. C'est le problème. Merci beaucoup, Defecator, pour ta participation à notre débat. Merci, Nertax, pour le Prime. Merci, JK, encore. Voilà. Bon, alors, là, on a vu Libération, c'est très bien, mais peut-être qu'on va aller voir d'autres journaux aussi. J'aime bien cette revue de presse du soir, là. Est-ce qu'on a un nouveau Parisien ? Eh oui ! Le Parisien est arrivé, 22h50. Arrêtez avec Michel-Edouard Leclerc, c'est une blague ou quoi ? Il y a des gens qui spamment Michel-Edouard Leclerc, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Hein ? Mais vous, vraiment, sérieux ? Merci Gontanos. Pourquoi ? Pourquoi Leclerc ? Parce qu'un mec qui est capable de vendre de la lessive pas chère, il peut diriger le pays. C'est quoi le propos ? Pardon, hein ? C'est quoi la proposition ? Les gens qui spamment Leclerc depuis le début, là. Ouais, défécateur officiel plutôt, oui. Parlez-moi de choses un peu cohérentes. Merci Xorce, merci Jardowan. Bon, il n'y a pas d'argument. Bon, c'était juste du spam. C'est le patron du groupe Leclerc, le supermarché. Ok, maintenant qu'on demande pourquoi, il n'y a plus personne. Formidable. Le Parisien vient de paraître. Lisons un peu. Après, c'est des débats très intéressants. Le grand flou, après la censure. Le grand flou. Qui nommait Premier ministre ? Il y a Ticapi dans le chat qui me dit « Eh Sam, un nom indonné ?» Non, c'est compliqué. Le grand flou. Ah oui, il y a Tigungur qui nous a répondu. Michel-Edouard Leclerc à Matignon parce qu'il est gérant de grosses entreprises, il connaît les marchés, économie internationale, etc. Super. Merci beaucoup. Et donc ça, tu penses que ça le rend compétent ? Pour diriger un pays. Hein ? Ah oui ! Oh, putain la vache ! C'est penser qu'il faut gérer un pays comme une entreprise ? Ouh ! Oh, c'est hyper dangereux comme idée, ça. Ah oui ! Bon, gérer un pays, c'est pas compliqué. Ça gère comme une entreprise. Vous avez remarqué que l'entreprise, c'est pas tellement une démocratie ? Vous avez remarqué que les salariés n'ont pas tellement leur mot à dire dans une entreprise ? Vous avez remarqué que souvent, c'est même assez violent, le monde de l'entreprise ? Vous avez remarqué que normalement, un principal objectif de l'entreprise, c'est de faire du profit pour faire des investissements, distribuer des dividendes, voire même traiter correctement ses salariés. L'objectif d'un pays, c'est pas de faire du profit. L'objectif d'un pays, c'est bien plus complexe que ça. C'est la gestion de tous ces intérêts individuels différents constitués par les citoyens. Qui sont membres de la collectivité, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, les gens qui en 2024 arrivent encore à vous dire, heureusement que plus personne ne pense ça, mais les gens en 2024 qui vous disent gérer un pays, c'est pas plus compliqué, hein, c'est comme gérer une entreprise. Hein. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est une blague, en 2024, vous pouvez pas penser ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Je sais pas, nommer un chef d'entreprise qui est matrixé vraiment par la recherche du profit, la conquête de nouveaux marchés. Vous avez parlé de solidarité, de soutien aux plus faibles, aux personnes en situation de handicap. Vous avez parlé budget de la culture, je sais pas, même de défense nationale. Le mec il veut dire acheter des avions, des chars, on arrête, plus d'armée, plus rien, let's go, tout sur l'économie. Voilà. L'école, oh là là, l'éducation, attendez, on va apprendre des métiers aux gamins des 12 ans, ça ira bien. Mais les gars, on ne va pas gérer un pays comme une entreprise. Hein. Après, il y a des chefs d'entreprise excellents, mais chacun son boulot, quoi. Hein. Michel-Édouard Leclerc. Putain, j'y crois pas, quoi. Donc, le Parisien. Ah hein. Oh ouais, l'hôpital géré comme une entreprise, on va faire ça aussi. Bonne idée, ouais. Super. Vous en avez d'autres, des comme ça ? Merci, TH Peanuts. Merci, Zardewan. Non, la politique, c'est une chose sérieuse, les gars. Hein ? Alors, qui nommait Premier ministre ? Et surtout, avec quelle force politique pour le soutenir ? Et sur quel programme la chute du gouvernement Barnier replace Emmanuel Macron dans une situation inextricable ? Bon, on attend ça demain. Alors, qu'est-ce qu'il dit Frédéric Michel ? Bon, il dit rien de nouveau de ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça, c'est l'actu. Macron s'exprimera demain à 20h. Ouais, on sera demain à 20h, on regarde. Ok. Ah, Macron face au choix pour Matignon. C'est un peu la question auquel on n'a pas la réponse ce soir. Macron face au choix pour Matignon. Plusieurs noms circulent pour succéder à Michel Barnier. Ah bah oui, parce que a priori, Macron il va nommer un nouveau Premier ministre et il pourrait le faire dans les prochains jours. Hein. Dont ceux de François Baroin, François Bayrou, Sébastien Lecornu. Le président veut aller très vite et réfléchir à une nomination ce jeudi. C'est ce que je vous disais. Ça peut aller assez vite. La dernière fois, il a attendu beaucoup trop de temps et on lui a reproché, là, ça va aller très vite. François Bayrou, Sébastien Lecornu, Bernard Cazeneuve, depuis 3 jours, les rumeurs vont bon train sur le nom du possible successeur de Michel Barnier à Matignon. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron est rentré de sa visite d'État en Arabie Saoudite, et voilà que tous les projecteurs se tournent vers l'Élysée, blablabla, blablabla, blablabla. Il veut aller vite, blablabla, blablabla, je vous donne l'essentiel. Voilà. Ça peut arriver jeudi, blablabla, blablabla. Alors, en coulisses, les échanges ont pourtant déjà lieu depuis plusieurs jours pour trouver la perle rare qui permettra au futur gouvernement de ne pas être renversé aussi vite hein, dans les prochains mois. Hein, ça, c'est l'équation compliquée. Il faut sortir des griffes du RN et de LFI qui s'inscrivent dans une logique de présidentielle anticipée et veulent déclencher une mécanique de crise de régime, estime un stratège du président, qui pousse pour sa part sur la constitution d'une plateforme programmatique minimale incluant la gauche socialiste, peut-être des écologistes et des communistes. Crédible à voir. Alors, est-ce que la solution, déjà évoquée tout à l'heure par le politologue, là, est-ce que la solution serait de nommer un Premier ministre soutenu par les socialistes ? Donc l'idée, c'est de ne pas prendre LFI. Donc ce serait supposé que les socialistes sortent du NFP. Waouh ! Ça, c'est pas fait. Les socialistes, les écologistes, donc ils ne veulent pas de LFI. Les macronistes. Voilà. Peut-être quelques élus de droite. On additionne tout ça et on arrive à une majorité. Je sais pas. Emmanuel Macron réfléchit, lui, selon nos infos, à un autre scénario venu de la droite, François Baroin. Bah, je vois pas trop ce qui change avec Michel Barnier. Michel Barnier, homme de droite, et là, ce serait Baroin, homme de droite. Pourquoi il pense à Baroin ? Le maire de Troyes, autrefois président de l'Association des maires de France, a effectivement un CV solide et long comme le bras. Ouais, d'accord. Sénateur, député, vice-président, blablabla, blablabla, ministre du budget, blablabla, blablabla. Oui, ben. Mais il est juste plus jeune que Barnier, mais sinon. C'est un élu local, bon, d'accord. Il n'a aucun contention avec le RN. Bon, ben, Barnier non plus, hein. Je vois vraiment pas la nouveauté, quoi. Bon. Oh ben, tiens, Baroin, c'est l'éternel plan B. Rail, un pont de la droite. Voilà. Et il serait intéressé. Ok. Ouais. Mais je vois pas ce qui... Oui, Kiné22 dit un Barnier bis, je suis assez d'accord. Je vois pas trop le... Je vois pas trop la différence avec Barnier, il est juste plus jeune. Mais c'est pas un problème de jeunesse ni d'âge d'ailleurs. Ah, il y a la piste Sébastien Lecornu aussi. Le ministre des Armées actuel, hein, en déplacement avec Emmanuel Macron depuis lundi, n'est pas un urticant pour le RN. Bon. Hein, il bénéficierait de la bienveillance tacite des troupes leninistes. Mais Barnier n'était pas un urticant pour le RN, hein, non plus. Je pense que pour que le gouvernement ait une chance, il faut autre chose. Quid de Bernard Cazeneuve, donc ancien socialiste, et de François Bayrou, qui est allié de Macron de longue date. Quant au patron du Modem, donc Bayrou très silencieux, un soutien jure que les conditions n'ont jamais été aussi réunies pour sa nomination à Matignon. Il paraît que Bayrou, il en rêve. Il a une hauteur de vue, il est calme, il a une autorité. C'est pas grave, ma tablette s'éteint de temps en temps, mais on s'en fout, ça va se rallumer. Voilà. À ceci près que les Républicains et leurs électeurs gardent une haine viscérale vis-à-vis de Bayrou, il ne lui pardonne pas d'avoir trahi Sarkozy en 2007. Voilà. La balle est désormais dans le camp de l'Élysée pour désigner celui qui sera, après Elisabeth Borne, Attal et Barnier, le quatrième Premier ministre de l'année. Voilà. Bon, en vrai, qu'est-ce qu'on voit avec cet article ? Dans les noms évoqués, il n'y a rien qui peut nous donner le début d'une conviction que il y a quelqu'un qui va faire mieux que Barnier. Hein ? Vous en pensez quoi ? Dans les noms évoqués, là. Tiens, c'est intéressant, ça. Qui profite ou pas de la censure, on va en parler. Hein ? Le président du Sénat, Gérard Larcher ? Pourquoi pas ? Framboise dit, pour moi, Barnier était bien trouvé. S'il n'a pas réussi, personne ne le peut. C'est aussi mon sentiment, mais je peux me tromper. Tu veux quoi, Sam ? Je veux devenir Silver sur Valo, moi, personnellement. Malo, il va mieux, merci Alexandra. Et question pour Chambon, c'est super bien passé. Merci Citron Violet, ça va mon ami. Merci Rompololo pour le Prime. Merci Lalou. Merci The Peanuts. Merci Gerdowan. Il pourrait peut-être tenter un peu plus à gauche quand même. Oui, c'est mon avis, Lebkuchen Miam. Alors, rappelons-nous avant tout ça. La gauche, quand même, à un moment, après la législative, a réclamé le pouvoir. Hein. Le Nouveau Front Populaire était assez d'accord pour réclamer le pouvoir en disant à Macron c'est nous qui avons gagné, c'est nous le premier groupe à l'Assemblée, le NFP, donc il faut un Premier ministre de gauche. Et à un moment, ça a été très compliqué, mais ils se sont mis d'accord sur Lucie Castet. Alors, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus d'accord à gauche. Voilà. Entre socialistes et LFI, notamment, ils ne sont plus d'accord du tout. Et Lucie Castet, ils n'en veulent plus. Vraiment, voilà. Donc, mais effectivement, ce serait une possibilité intéressante, puisque qu'est-ce qu'a essayé Macron avec Barnier ? De nommer un Premier ministre de droite et de former un gouvernement plutôt de droite, et ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, la logique pourrait être d'essayer la même chose avec la gauche. Voilà. Mais, manifestement, la gauche elle-même n'est pas d'accord sur la stratégie à adopter. Avec les socialistes plutôt sur cette option-là, en essayant de trouver une majorité la plus large possible avec écologistes, communistes, centristes, voire un petit peu de droite, et LFI qui dit non, il faut obtenir la démission du président Macron. Quoi. Voilà. Le peuple réclame Samuel Etienne comme premier. Je peux pas, moi. J'ai question pour un champion, j'ai Twitch, j'ai les enfants. Pire métier du monde. Hein. Alors, qui profite ou pas de la censure ? Bon, ça c'est technique, c'est intéressant, c'est dans le Parisien. Donc, pas de gouvernement, pas de budget. Hein, vous avez compris ça ? Il n'y a même pas de budget qui peut être présenté à l'Assemblée, donc il n'y a pas de budget. Alors, c'est pas grave. Ils vont voter en urgence une loi pour que le budget 2024 continue à s'appliquer. Alors, certains pourraient penser, dans ce cas-là, tout va bien. Non, ça va provoquer quand même des conséquences. Qui profite ou pas de la censure ? La chute du gouvernement prive provisoirement la France de textes budgétaires pour 2025, ok ? Une situation inédite, synonyme de bonnes nouvelles pour certains, mais pas pour tous. Les gagnants, les contribuables lésés. Oui, les 24 300 foyers parmi les plus riches qui n'étaient pas imposés à un taux moyen minimum de 20% devaient s'acquitter avec le nouveau budget d'une contribution exceptionnelle l'année prochaine pour participer à l'effort des redressements des comptes publics. Faute de budget, la mesure ne sera pas appliquée. Voilà. Donc les contribuables les plus aisés, c'est très peu de foyers, hein, 24 000 foyers, c'est ceux qui arrivaient à bien s'organiser hein, pour pas payer plein pot les impôts. Hein, c'est des gens qui devaient être sur des taux marginaux d'imposition extrêmement élevés, hein, du 40, du 50%. Non, c'est quoi, c'est maximum en France, c'est quoi, 45, je sais plus. Et en fait, comme ils s'arrangeaient bien, ces foyers étaient autour de 20%. Oh les coquins, oh les coquins. Et donc là, il y avait dans ce budget une contribution exceptionnelle l'année prochaine pour leur faire payer plus. 70%, mais non, Sam Lamou, là, là, vous êtes nuls. Oh, vous ne connaissez pas vos impôts. Taux marginaux d'imposition en France. Sur l'impôt sur le revenu. Oh, c'est fou, ça. Les gars, c'est 45, je pense. Voilà. C'est dingue, ça. Voilà, on est sur le site impogouv.fr. C'est pas compliqué, en vrai, en plus, l'info, bordel. Avant d'écrire 70%, là. Voilà, on est sur le taux des, le site des impôts, là. Voilà. Si tu gagnes plus de 77 106 euros dans l'année, eh ben, tout euro gagné au-delà va être taxé à 45%. D'accord ? Hein, c'est pas 45% de l'ensemble de tes revenus. On rappelle, c'est un taux marginal d'imposition. C'est 45% de tous les euros que tu vas gagner au-delà de 177 000 euros. L'argent que tu auras gagné entre 80 000 et 177 000, celui-ci sera taxé à 41%. Celui qui sera taxé entre, gagné entre 28 000 et 82 000 sera taxé à 30%. 11% c'est de 11 000 à 28 000 et 0% si tu gagnes sur l'année moins de 11 294 euros. D'accord ? Ok. Voilà. Donc, c'est pas 70%, c'est 45% max. Voilà. Après, si tu payes l'IFI, ça va te faire un peu plus au final, quoi. Mais l'IR, c'est 45%. Donc là, le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui devraient payer 45%. Et en fait, comme ils s'organisent bien au niveau de leur placement, de la façon dont ils sont rémunérés, les dividendes, tout ça, ben, certains sont à moins de 20%. Donc là, dans le nouveau budget, il y avait un truc qui les faisait payer plus. Bah, comme il n'y a pas de nouveau budget, ils ne vont pas payer plus. Voilà. 45%, c'est plus de l'impôt, c'est du vol. Ça, c'est un débat. D'abord, je le répète, ça n'est pas 45% de l'ensemble de tes revenus. J'espère que vous avez bien écouté. C'est 45% de ce que tu vas gagner au-delà de 177 000 euros. Tes revenus avant, ça aurait été taxé à 41, à 30, etc. Okay, on ne te prend pas 45% de tout. Quelqu'un qui gagne vachement sa vie, qui a un taux marginal d'imposition de 45%, enfin, il va être imposé à hauteur de 30% à peu près. Ça dépend de ce que tu gagnes. Okay. Les retraités, eux aussi des gagnants. Puisqu'il n'y aura finalement pas de désindexation au 1er janvier 2025. Normalement, les retraites, elles sont indexées sur l'inflation et ça permet de protéger les retraites de l'inflation. Sauf que l'année prochaine, il y avait une hausse de liée à l'inflation qui était moindre, hein, qui était reportée. Bon, bah là, comme le budget n'a pas été voté, eh ben, les retraités, ils vont prendre la hausse plein pot. Voilà. Les entreprises aussi, puisqu'il y avait une baisse des charges qui était prévue pour les entreprises, voilà. Une baisse des allègements de charges, donc une hausse des charges, et bien finalement ça aussi c'est annulé. Les gros groupes, les plus grosses entreprises, on leur avait demandé un effort aussi pour participer au budget du gouvernement, contribution exceptionnelle sur l'impôt des sociétés de 2 ans pour les plus gros groupes, un peu comme les plus riches, au niveau des particuliers, pareil, c'est annulé. Voilà. Les perdants, ça c'est les gagnants. Les perdants, bah les contribuables, c'est ce que je vous disais, puisque il y a même des 380 000 ménages qui échappaient à l'impôt qui vont devoir être imposés. Pourquoi ? Parce que le texte budgétaire qui devait être voté prévoyait d'indexer le barème de l'impôt sur l'inflation pour éviter que les contribuables qui ont vu leur salaire augmenter en 2024 en raison de la hausse des prix soient davantage taxés. Ça, c'est une tradition. Hein. Et ben en fait, ça ne va pas pouvoir être voté. Et donc, ben, tous les gens imposables vont payer un petit peu plus d'impôts. Voire certains vont devenir un petit peu imposables. Voilà. Et puis les agriculteurs aussi qui avaient obtenu des mesures pour les protéger un petit peu. Et ben ça saute aussi. Voilà. Bon, après, c'est pas des hausses énormes pour les gens imposés. Voilà. Bon, ça c'est un peu technique, mais bon. Voilà. Le problème, c'est plus que ça, plus que ce qu'on dit là. Qu'est-ce qui est problématique là ? C'est qu'on ne sait pas quand un nouveau budget va pouvoir être voté. Voilà. Et le pays change, le pays il évolue, il a des besoins qui évoluent. À un moment, il faut voter des dépenses et des recettes. Donc il y a un moment, sur 15 jours, sur un mois, on peut estimer que ce n'est pas très très grave de fonctionner avec le budget d'avant, voilà, en votant des petits textes en urgence rapide pour que les fonctionnaires soient payés, etc. Mais à un moment, un budget, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes d'un État. Ben, très très vite, on va vite être bloqué, quoi. Hein, quoi? J'ai pas compris ta question, Lucas Pox. Merci beaucoup, Karigana. Merci, Puzzle. Oui, bien sûr, Cassandre, ça, c'est les gens optimistes, mais c'est bien d'être optimiste. Il y a Cassandre qui me dit, mais Samuel Etienne, rien n'empêche le prochain gouvernement de faire un projet de loi rectificatif très rapidement pour remettre tout ça en ordre. Hein? Bien sûr. Hein, les gens comme moi qui disent, oh, c'est un peu le bordel, il n'y a pas de budget. Et les gens un peu optimistes me répondent dans le chat, mais c'est pas grave, le prochain gouvernement, il va voter un budget, un nouveau budget. Quel gouvernement? Avec quelle majorité? Quel texte va passer le vote? Quel texte va trouver une majorité? On est dans une démocratie, il faut que le texte soit voté. Alors, c'est pas grave, il n'y aura pas de majorité, on va prendre le 49-3. Ah bon? Ah, motion de censure alors. Hein? Eh bien, rebelote, retour à la case départ. Toujours pas de budget. Alors, je suis un peu pessimiste. Hein. Peut-être que là, le président Macron, demain soir, va nous sortir un nom du chapeau, hein, un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre, et tout le monde va se dire, dans le chat et en France, « Waouh ! C'était lui qu'il fallait hein !» Michel-Édouard Leclerc, là, pour reprendre le nom qui était proposé tout à l'heure, là. Je sais pas moi, Kylian Mbappé ou je sais pas moi. Et les gens vont se dire waouh, putain, c'est exactement ça. Et puis le mec, le talent quoi, tout au talent quoi. Le mec il arrive, ouais, Zizou, ouais, bien sûr. Rayou, Cyril Hanouna, qui vous voulez. Et au talent quoi. Le gars il nomme des ministres, tout le monde se dit waouh, ils sont géniaux ceux-là, tout le monde les adore. Et puis après, les députés, l'actuelle assemblée là, parce qu'on peut pas les changer, ils font ah ouais, putain, ce mec on le kiffe. Le RN, vous le kiffez? Et les filles, vous le kiffez, vous aussi, ce mec? Oh, incroyable. Ah, trop fort, Macron. Et donc, le budget, il passe, quoi. Impeccable. Bon. Évidemment, vous savez que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, se rassurer en se disant, c'est pas grave, le prochain gouvernement, il va voter un budget. Moi, je veux bien. Hein. J'ai très envie aussi, comme vous, qu'il y ait un budget. Mais je vois pas avec quel soutien à l'Assemblée. Jacques Attali, tu veux que je propose Jacques Attali, Soufiane, au chat? Soufiane, il est en colère parce qu'il dit « Tu ne lisais même pas les vraies propositions comme Jacques Attali. » C'est parti, Jacques Attali. Allez-y, les gars. Je vous ai même pas besoin de moi. Jacques Attali, pour les gens qui savent, allez-y. Jacques Attali à Matignon. Soufiane, il dit que c'est la solution. Personne ne connaît Jacques Attali? Si, quand même. Alors, je vois non, je vois lol, je vois socialiste. Je vois non. Voilà. Je vois PTDR non. Voilà. Soit non merci, hein. Non et lol, voilà. Non pitié, voilà. Non bolchevique, non c'est pas un bolchevique. Non il est pas mort, il continue à signer des tribunes dans la presse, dans l'opinion notamment. Ouais. Bon alors désolé Soufiane, Attali, non. C'est pas, y a, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a aucun nom. Je peux, si Chuck Norris peut-être. Mais il n'y a aucun nom que Macron peut sortir du chapeau demain soir pour trouver une solution à cette crise politique que nous vivons. Mais n'importe quel nom. Je pense que vous avez compris ça. Ah, une petite question rigolote. Aujourd'hui, au boulot, à question pour un champion. On a parlé de la. Les gens sont venus me voir en me disant est-ce qu'on tourne demain? Non, c'est jeudi, c'est ça? Parce que normalement, il y a grève. Il y a un appel à la grève, je crois. 7 syndicats dénoncent des mesures. Donc, il y a un appel à la grève, mais les mesures, elles sont rendues caduques par la censure. Alors, est-ce qu'il y aura grève jeudi? Très remonté contre. Ah, Alors, les syndicats ont dit qu'ils maintenaient leur appel à grève parce que ce sera un message aux parlementaires et au futur gouvernement. Ah, alors, c'est pas une grève contre l'actuel gouvernement. Bah oui, il n'y en a pas. C'est une grève contre le futur gouvernement. C'est pour envoyer un message. D'accord. Okay. Bon. Alors, il y a un responsable syndical qui est sceptique, donc c'est notamment dans l'éducation nationale hein, qui a un appel à la grève. Perdre une journée de salaire pour dire son mécontentement s'il n'y a plus de gouvernement, c'est pas sûr qu'il y aura du monde. Voilà. Voilà, Force ouvrière, par exemple, c'est ne s'est pas joint à l'intersyndicale. Ils ont dit que ce n'était pas la peine de faire la grève demain. Okay, bon. Bon, les réactions européennes. Ouais. On verra la bourse demain, elle a été en hausse aujourd'hui. C'est quoi ça? Twitter. On est nul en maths. Je suis en train de dire le Parisien, je suis en train de faire une revue de presse, catastrophe. Article 16. Alors l'article 16, je connais pas bien le sujet, mais je sais que souvent c'est un truc qui pop dans le chat, ça. C'est le petit coup de baquette magique. C'est Macron, ça, c'est ça? C'est quand le président devient. Hein? C'est quoi? Attendez. Ah oui, c'est comme quand De Gaulle avait pris des pleins pouvoirs, c'est ça? Article 16 de quel texte? De la Constitution, bien sûr. Alors. Alors, j'ai un article du Conseil constitutionnel, article 16. Voilà. Je crois que c'est De Gaulle qui avait fait ça à l'époque. Enfin, je crois que c'est un peu les pleins pouvoirs. C'est un peu la dictature, quoi, pour dire les choses. Je suis sur le site du Conseil constitutionnel. Quel pouvoir donne l'article 16 de la Constitution au président de la République? Parmi les pouvoirs de crise par la Constitution de 58, les plus connus sont les pouvoirs exceptionnels du président figurant l'article 16. Voilà. Lorsque le président décide de recourir à l'article 16, ses pouvoirs sont particulièrement étendus. Toutefois, l'application de cet article ne saurait être maintenue indéfiniment et elle doit être une réponse temporaire à des situations de crise précisément identifiées. Manifestement, les situations de crise qui motivent l'article 16, elles sont précises. On le voit au chapitre 3 qu'on va aller voir. Alors, les conditions de fond hein, pour que le président puisse utiliser l'article 16. Voilà. Il lui donne des pouvoirs exceptionnels. Il faut qu'il y ait une menace grave et immédiate des institutions de la République, ce qui n'est pas le cas. De l'indépendance de la nation, ça n'est pas le cas. De l'intégrité de son territoire, c'est la guerre, ça n'est pas le cas. Ou de l'exécution de ses engagements internationaux, ça n'est pas le cas. Hein, en gros, il faut une invasion russe, quoi. Merci défécateur. Il faut qu'il y ait une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, ça n'est pas le cas. Voilà. Ok. Alors, donc ça n'est pas le cas. On n'en est pas là. Après, le président Macron peut l'invoquer, mais le Conseil constitutionnel va lui dire, et tous les politiques, il ne peut pas le faire. Quoi. On n'est pas, je vois mal le président. Ouais, après, il faut qu'il soit suivi par le pays. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne comme pouvoir? Le président, dans ce cas, peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. Voilà, il dit, budget, let's go. Quoi. Voilà. Au mépris de la séparation du pouvoir. Il peut prendre des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement, exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter le contre-sein du Premier ministre et des ministres. Bon, bah bref, le pouvoir, c'est Macron, quoi. Voilà. Il y a des limites. Voilà. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, par exemple. Le président ne peut pas interdire au Parlement de se réunir. Il ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Et il y a une durée limite. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée, par exemple, ou le président du Sénat ou d'autres, voilà, pour se prononcer sur cet article 16. Voilà. Notamment. Bon, c'est assez encadré, quoi. Voilà. Bon, bref, là, on n'est pas dans, sauf erreur de ma part, à moins que vous ayez entendu quelqu'un dire que c'était possible, un spécialiste. Je ne pense pas que Jean, par exemple, Jean Massier, qui a une très bonne connaissance de la Constitution et de la vie politique de notre pays, je ne crois pas que l'article 16 puisse s'appliquer ici. Quoi. Les gens qui posent la question dans le chat, c'est qu'ils se demandent si le président Macron pourrait décider de devenir dictateur. Quoi. A priori, l'article 16 ne lui permet pas. Quoi. Je pense que le gaming est plus fun quand même avec toutes ces histoires. Je suis d'accord, Hakim. Moi, je voulais faire du GTA RP ce soir, en vrai. Mais bon, en même temps, je ne voulais pas... Salut SCP Assemblée Nationale. Ça va? Trop mignon, le petit message. Ah, je vais vous follow, moi. Attends, je vais sur votre chaîne. J'espère que je vous follow. Ah, je vous follow déjà. Moi, je voulais faire du gaming ce soir, mais bon, sur une chaîne qui fait un peu d'infos, j'étais obligé de faire un petit peu d'actu, quoi. Bon, voyons si le Parisien, il y avait d'autres choses. Voilà, Parisien, je pense qu'on a lu à peu près ce qui était intéressant. On a vu Libération, on va aller voir le Figaro. Le grand flou. Bon, je pense qu'on est d'accord sur ça, quoi. Hein ? Hop ! Le Figaro, qui à mon avis est sorti aussi, jeudi 5 décembre 2024, c'est parti, on télécharge. Merci la fibre, la vitesse de l'éclair. Merci Carigana. Censure politique, crise politique. Alors, édito. Bon, là, on a eu l'analyse d'un journal de gauche, Libération, tout à l'heure. Qu'est-ce que disait déjà Alexandra Schwarzbrod ? Ah oui, elle disait que peut-être que les futurs électeurs de Marine Le Pen allaient demain peut-être ne pas voter pour elle parce que du coup, elle avait un peu provoqué la crise, quoi. Bon, ça, c'était l'analyse de Libération sur le sujet. Qu'est-ce que pense, non pas le Figaro d'ailleurs, mais l'éditorialiste du Figaro, Vincent Trémollet de Villers. C'est pas parce qu'un journaliste écrit un édito dans un journal que tous les journalistes du journal sont d'accord avec lui. Ne pensez pas à un journal comme un groupe homogène. Les journalistes au sein d'une rédaction, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, l'édito de Vincent Trémollet de Villers, certes, il a eu le droit de l'écrire, donc il n'est pas totalement éloigné de la ligne éditoriale du journal, mais c'est d'abord l'avis de Vincent Trémollet de Villers, et pas forcément de tous les journalistes du Figaro. Hein ? La France à la renverse. Même au JDD. Ah, bon, au JDD, c'est différent, ils sont tous partis parce que, après le rachat par Bolloré, ils voulaient pas bosser dans ces conditions-là. Donc on peut dire que, oui, effectivement, au JDD, il doit y avoir une certaine homogénéité de la rédaction. Allez, tu m'étonnes, ils sont partis à quoi ? 95% de la rédaction d'avant ? La France à la renverse. Jean-Luc Mélenchon était dans les tribunes, il a passé une excellente après-midi. Le spectacle a comblé toutes ses attentes, la gauche a porté les coups sur le gouvernement coupable de trop donner au RN et le parti de Marine Le Pen a offert une majorité à un texte qui dénonce explicitement son mouvement. Le RN s'est allié à l'extrême gauche anti-RN pour censurer un premier ministre de droite. Bon, le gouvernement estime que le nouveau Front populaire, c'est l'extrême gauche. En tout cas, le journaliste du Figaro. Le gouvernement est tombé comme un fruit mûr, ça n'était pas arrivé depuis 62 ans, les livres d'histoire racontant que c'était sur l'absence d'indexation des pensions de retraite. Il y a un petit peu d'ironie là. Hein. Au bord du gouffre financier, du déclassement économique, notre pays est traversé par une délinquance aveugle et galopante, frappé par une déstabilisation migratoire qui amplifie toutes ces difficultés. Oh là là, oh là là. Bon. Pardon. La France est à la renverse, mais la politique se confine dans des négociations catégorielles et des combinaisons lilliputiennes. Le menton se redresse, la voix porte haut, les mots claquent, mais tout sonne faux. Les réalités quotidiennes des citoyens n'apparaissent qu'en rhétorique. Les défis qui s'annoncent nourrissent les tentatives d'éloquence, mais l'astre parlementaire n'éclaire plus. L'Assemblée tourne à vide, elle ne peut être dissoute, et donc elle est de trouver le moyen d'équilibrer un peu ce qui est instable. Il n'y aura pas de miracle. Même si Emmanuel Macron pouvait faire de bon sens, ce qui serait déjà inespéré. Bon, qu'est-ce qu'il dit en vrai ? C'est beaucoup de mots, mais... Le pays est évidemment à droite, il ne faut surtout pas un Premier ministre venant de la gauche. Le pays est évidemment à droite. Attendez, mais aux dernières législatives, qu'est-ce qu'ils ont fait la droite ? Ils sont pris une tôle. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Le pays est évidemment à droite. Il faut surtout pas un Premier ministre venant de la gauche. Mais la droite, ils sont pris une tôle. Ah, mais je vois dans les gens en chat qui disent « Ah, mais la droite, elle a fait 65%, 73%. » Ah, ça y est. Ok, les gens qui font ce calcul dans le chat, c'est le calcul du Figaro aussi. Je fais exprès. Hein. Je fais exprès de faire, le mec ne comprend pas. Les gens qui disent « La France est à droite », ils estiment que le RN, que l'extrême droite, c'est la droite. Voilà. C'est ce que pense le journal du Figaro, je faisais exprès de ne pas comprendre, et c'est ce que pensent les gens qui m'ont donné du 65-73% dans le chat. Ok, voilà. Alors ça, c'est une analyse politique. Ben oui, me dit Zanonox. Ben oui, bien sûr. Marine Le Pen, c'est la droite. Bien sûr. Marine Le Pen, c'est de l'extrême droite. Ce n'est pas la même chose. Quand tout est flou, enfin, il est sage de protéger les lignes claires. Celle de Bruno Retailleau au ministre de l'Intérieur a convaincu l'opinion en quelques semaines, il serait judicieux de ne pas l'effacer. Dans cette configuration, blablabla. Bon, en gros, pour faire simple, l'éditorialiste du Figaro dit Marine Le Pen a été irresponsable, la gauche a été irresponsable, Michel Barnier c'était très bien, il faut nommer un nouvel homme de droite, c'est la seule solution. Voilà, je résume. Alors c'est marrant parce que le journaliste du Figaro dit clairement qu'il ne faut pas nommer non plus un responsable du RN, puisqu'il vient de dénoncer l'irresponsabilité de Marine Le Pen. Mais dans le même temps, il dit que la France est à droite en incluant dans ce calcul le Rassemblement National. C'est pas... Merci, Gursixo. C'est pas très très clair comme analyse. Hein. Bon, voilà, le Figaro aurait voulu garder qu'on garde ce monsieur, quoi. Voilà. Ou qu'on nomme un équivalent, quoi. Hein. C'est pas très très clair comme analyse. Si je peux me permettre. Hein. Figaro, quoi ? Non, Yurasu. Non, soyez plus subtil que ce journaliste. C'est la vie de ce journaliste du Figaro. Et si je me promène dans les couloirs du Figaro, je vais trouver des journalistes du Figaro, je vous le promets, qui vont dire « Putain, il est nul cet édito. Il raconte n'importe quoi, mon Vincent. Vin-vin. » Vous voyez ? C'est plus compliqué que ça. Mais oui, mais après, cet article, il est publié dans le Figaro. Parfois, dans ce journal, je vais trouver deux articles du Figaro signés de deux journalistes différents qui ne vont pas être d'accord sur un sujet. Ça arrive. Omer alors dit « Non, le Figaro est de droite, désolé ça. » Mais bien sûr que le journaliste est de droite. Que le Figaro, c'est un journal de droite. Je ne dis pas ça. Je dis juste que l'analyse, qui est un peu particulière quand même de ce journaliste du Figaro, qui dit que l'extrême droite, c'est la droite, il y a des journalistes au Figaro qui ne vont pas être d'accord avec ça. Ce qui n'est pas la même chose. Bon, ça, c'est les faits. La fin brutale d'une mission impossible à Matignon, ça, on est d'accord. Tiens, qu'est-ce que dit par exemple Emmanuel Galliero ? Non, c'est plutôt sur Barnier, ça, ok. Qui va remplacer Michel Barnier à Matignon ? Ça fait rêver. Hein. Donc on a Sébastien Lecornu, François Bayrou, Bruno Retailleau, François Baroin, Bernard Cazeneuve, François Villeroy de Gallo, l'actuel gouverneur de la Banque de France, ou encore Thierry Breton. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Guillaume Tabar ? Okay. Ça, c'est demain soir. Ça va être génial. Moi, j'ai pas pu vivre la séance à l'Assemblée aujourd'hui, le vote de la motion de censure en direct parce que j'étais... J'étais à Question pour un champion en tournage. Mais demain, je vais pouvoir être à la maison à 20h. Voilà. Et ça, mine de rien, même si c'est un président extrêmement affaibli, hein, vous le savez, le président Macron, bah, il est quand même détenteur d'une partie de la solution. C'est lui qui va nommer le Premier ministre. Moi, je suis très impatient quand même de savoir quel mot il va utiliser demain soir à 20h pour expliquer la situation aux Français. Un live, ah oui, je ferai un live demain, je vais essayer de lancer vers 19h30. Ah oui, je vais le streamer, ça. Ah oui, ça, je vais le streamer. Et j'ai hâte d'entendre ses mots, voilà, les éventuels reproches qu'il va faire, à qui, et puis quelle solution il va proposer, quoi. Voilà. Merci Hob. Merci 777 Seb. J'essaie de trouver des nouveautés qui peuvent nous donner des idées sur ce qui pourrait se passer après. Mais je pense qu'on a un peu fait le tour. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une piste. Ça, c'est une piste. C'est dans le Figaro. On vient de voir que le gouvernement, qui est un gouvernement de droite, soutenu en gros par les macronistes et les députés, une partie des députés LR, ça n'a pas marché. Hein. Ils n'avaient pas de majorité suffisante. Quoi. Il y a une autre idée qui est en train de faire son chemin. L'idée d'un pacte de non-agression avec la gauche sans LFI. Camille a lu cet article tout à l'heure, elle l'a trouvé pas mal. Merci Kim GG. J'ai vraiment des modos de qualité, quoi. Merci Abracor. Merci Kim GG. Merci Glangoulu. Joli. Lisons cet article. L'impossible hier va-t-il soudain devenir envisageable ou rester un doux rêve ? Après la chute du gouvernement Barnier, certaines figures du nouveau Front populaire, okay, comme du camp Macron, donc certains responsables à gauche et certains responsables du camp Macron, veulent dresser des ponts entre eux pour consolider une majorité plus solide. Hein. D'aller chercher, en gros, on garde les macronistes, on garde un petit peu les députés LR et on va chercher des députés des soutiens à gauche. Voilà. Mais sans LFI, pour consolider une majorité plus solide. Hein, ça ferait quelques députés en plus, quoi. Même si ce n'est pas simple, qu'on cède à un responsable de gauche. De part et d'autre, chacun s'accuse de ne pas s'inscrire, blablabla, blablabla, je vous passe le blabla. L'écologiste Yannick Jadot, par exemple, a mis une proposition sur la table dans un entretien publié mercredi matin sur le site du Figaro. Donc Jadot, l'écologiste, estime qu'il faut ouvrir la possibilité d'un pacte républicain transitoire entre le NFP et le Bloc central. Pourquoi sans LFI ? Me demande John Snowbard. Parce que jamais LFI voudra s'allier avec les macronistes. Quelqu'un dans le chat veut aller poser la question à Mélenchon ? Jean-Luc, t'es OK de faire un petit gouvernement transitoire où on va prendre les macronistes, quelques députés de droite et tu veux bien le soutenir ? Non. Non, donc c'est pour ça que c'est sans Mélenchon, parce que ils savent déjà qu'il va dire non. Donc Jadot, ouvrir la possibilité d'un pacte républicain transitoire entre le NFP, en tout cas une partie du NFP et le Bloc central, jusqu'à la prochaine dissolution de l'été prochain, avec un accord de non-censure, voilà, basé sur un socle restreint de mesures indispensables pour les Français, une espèce de minimum programmatique commun, voilà, avec un homme de gauche à Matignon. Donc là, on parle d'un gouvernement commun entre une partie de la gauche et des macronistes. Voilà. Évidemment, toute la gauche ne va pas être d'accord avec ça. Par exemple, l'ancienne députée insoumise Clémentine Autain, qui est fâchée avec la direction de LFI, elle a beau être fâchée, elle n'est pas du tout d'accord avec cette proposition de Jadot. Elle dit, on ne va pas faire un gouvernement bricolé avec des macronistes. Hein. Il faut une cohérence idéologique. C'est sur la base du contenu que se créent des coalitions pour gouverner. Donc, Madame Clémentine Autain, elle n'est pas d'accord, par exemple. Alors les insoumis refusent le moindre compromis, hein, LFI, mais c'est vrai, il y a des socialistes, des écologistes, des communistes qui estiment qu'il faudra bien tenter d'ouvrir le dialogue, comprenez, avec les macronistes. Voilà. Seule manière à leurs yeux d'empêcher une nouvelle alliance entre macronistes et la droite, les LR. Le but serait de nouer des compromis, texte par texte, afin d'aboutir à un accord de non-censure. Alors, on est vraiment sur le plus petit dénominateur commun, quoi. Pour faire passer des textes, comme le budget, par exemple. On peut critiquer cette démarche, mais on pourrait aussi parler d'une démarche responsable, constructive. Hein. Mais tu joues pas d'Offus, Samu ? Ben non, je voulais jouer, mais bon, je suis obligé de faire un peu d'actu, quoi, un peu de politique. Alors, plusieurs dirigeants macronistes sont OK avec ça, notamment François Bayrou. Bon, bah, à suivre. Voilà. Si demain, le président Macron annonce un homme ou une femme de gauche à Matignon avec, en gros, un socialiste ou un écologiste soutenu par une partie de ses troupes sans LFI avec les macronistes, vous penserez à cet article. Si vous voyez l'annonce de François Bayrou à Matignon qui semble OK pour cette idée avec des socialistes et des écologistes et voire des communistes qui seraient d'accord pour soutenir un gouvernement... Bayrou, certes, mais avec une couleur à gauche au niveau de la composition de ses ministres, vous repensez à cet article. On verra. Samuel, je me pose une question. Est-ce qu'un journaliste a le droit de mettre la vidéo de Macron en direct ? Très bonne question, Alexandra. Oui. C'est une allocution demain depuis l'Élysée. C'est pas... Alors, si le président Macron donnait une interview demain soir à 20h à TF1, à France 2, à France 3, je ne sais à quel média... Je n'aurais pas le droit de la reprendre. Hein. C'est une interview réalisée par une chaîne de télévision. Je n'ai pas les droits pour la diffuser. À partir du moment où cette interview est diffusée par la présidence de la République, par l'Élysée, c'est autre chose. Là, comme dit Jean Massier, c'est un peu le bien commun. Ça appartient à tout le monde. Donc, j'aurai le droit de la diffuser. Quoi. Voilà. Alors, j'irai la prendre directement sur le site de l'Élysée. Quoi. Mais, tu peux pas te faire strike ? Ben non, pas là. Quoi, c'est l'Élysée qui va me strike ? Hein ? À mon avis, ils ont d'autres chats à fouetter. Hein. Vous imaginez ? Intéressant de lire les journaux de demain. Vous rendez compte qu'on est, on est la France qui a de l'avance. Hein. On est. Merci Alexandra pour ta question. Hein. Voilà, c'est une allocution, c'est pas une interview. Merci Anonyme 31. Hmm. Demain soir, allocution, exactement. Voilà. Vous savez, on est la France qui a de l'avance. On est en train de lire les journaux de demain. Là. Ah, là, on est sur la Russie. Là. Voilà. On a lu Figaro, on a lu Paris, on a lu Libération. On la croit, et les pauvres, ils ont pas pu boucler avec l'info, donc on l'a vu tout à l'heure. L'Humanité, est-ce que l'Humanité a réussi à faire sa une sur... sa une de demain sur... oui, peut-être. La débâcle. Téléchargeons l'Humanité. La débâcle. On a tout lu, on peut jouer. Vous êtes foufou, hein. Hop, c'est téléchargé. La débâcle, oh là là. Bah oui, elle est bien la photo, là. Elle est bien choisie. Hein. C'est vrai, là, on sent que ça va pas fort, quand même. Hein. Elle est pas mal. En vrai, elle est pas mal, cette une. C'est passé la motion, ouais. Blukis, il y a les gens qui arrivent ce soir, là, qui n'ont pas l'info. Tiens, moi ce que j'aimerais aller voir, l'info on l'a, hein, c'est l'éditorial, là où le journaliste ou le journal donne son avis. Quoi. Parfois dans certains journaux, l'éditorial n'est pas signé. Dans Le Monde par exemple, en général, l'éditorial n'est pas signé. C'est en gros l'avis du journal sur un sujet. Donc, voilà. C'est censé être un peu collectif. Voilà. Souvent c'est signé par un journaliste. Là c'est par exemple Cédric Clairin. Qu'est-ce qu'il dit Cédric Clairin de ce qui s'est passé ? Bon, l'Humanité n'a pas beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron. Lisons, c'est assez rapide. Ouais. Qui aurait pu prévoir ? Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a fait preuve d'une cécité digne du monarque enfermé dans sa tour d'ivoire. En nommant Michel Barnier après des semaines de tergiversation avec pour feuille de route de ne pas appeler la gauche aux responsabilités en dépit du résultat des urnes, l'issue était connue. Dès septembre, les ingrédients de cette seconde censure d'un gouvernement depuis 60 ans étaient réunis. Donc pour Cédric Clairin, le verre était dans le fruit, hein, en choisissant de ne pas mettre... la gauche à Matignon. Le choix délibéré de se mettre entre les mains de l'extrême droite ne pouvait que provoquer l'échec et aggraver la crise, car aujourd'hui la France n'a plus de gouvernement qu'elle n'en avait il y a 3 mois. N'a pas plus de gouvernement qu'elle n'en avait il y a 3 mois. Il manquait un mot. Entre-temps, le RN, qui avait déjà été rejeté par une large majorité de Français, est revenu à la faveur du choix présidentiel au centre du jeu. Blablabla, blablabla. La situation est donc aujourd'hui pire qu'elle ne l'était avant la dissolution. Bon, ça, on est tous d'accord. Avant la désignation d'un Premier ministre désormais déchu. Le président s'en inquiète-t-il ? Il est permis d'en douter, tant lui et ses amis mettent leur énergie à faire croire que le vrai danger serait à gauche. C'est pourtant elle qui estime l'Humanité le plus légitime pour exercer le pouvoir et tenter de débloquer la situation. Oui, peut-être, mais la gauche n'arrive pas à s'accorder. Ils sont bien gentils, hein, l'UMA. Certes, la politique qu'elle propose se fera au détriment d'intérêts que le président a tout fait jusqu'alors pour préserver. Mais l'heure est au choix entre les intérêts du capital et la République de plus en plus menacée. Le choix munichois de négocier avec l'extrême droite vaut aujourd'hui à l'exécutif la chute et le déshonneur. Reste à éviter la guerre que constituerait son arrivée au pouvoir. Il est encore temps. Bon. Oui, c'est l'opposé du spectre du Figaro. Là, le reproche qu'on peut faire à cet édito, alors l'édito dit c'est à la gauche d'arriver à Matignon, regardez le résultat des législatives, c'est ça qu'il aurait dû faire depuis le début. Oui, sauf que... Alors, moi, je pense que cet édito, il avait du sens après législative, quand la gauche a réussi, contre toute attente, à s'accorder sur le nom de Lucie Castet. Vous vous souvenez ? À un moment, la gauche a réussi à se mettre d'accord sur un nom, celui de Lucie Castet, et en disant, y compris Jean-Luc Mélenchon, « Dis donc, Emmanuel, Macron, regarde, c'est nous qui avons gagné les élections, on s'est mis d'accord sur un nom, tu nommes Lucie Castet à Matignon, et let's go. » Bon, Matignon, Macron a refusé. Il ne voulait pas nommer de personnalités de gauche à Matignon. Donc cet édito, il aurait été pertinent. Sauf qu'aujourd'hui, la gauche n'est plus d'accord sur cette solution. La gauche n'est plus d'accord sur cette solution. Ils sont toujours d'accord. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, plus du tout. Quand tu vas voir aujourd'hui les partis, ils ne sont plus d'accord sur la piste Lucie Castet. Voilà. Ils se sont un peu redivisés sur cette question. Donc cet édito, il est un peu daté pour moi. C'est plus Lucie. Ben non, c'est plus personne, en fait. Et oui, ouais, ben les choses ont changé. Voilà, on revient sur les faits. Il y a un constitutionnaliste interrogé par l'humanité, ça m'intéresse. Ah, j'aime quand les spécialistes de la Constitution pensent comme moi. C'est bon pour mon ego, ça. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas en changeant la règle du jeu qu'on va résoudre le problème, c'est un problème de comportement, de responsabilité des acteurs politiques. L'humanité demande à ce monsieur qui s'appelle donc Benjamin Morel, qui est un constitutionnaliste, la Ve République est-elle taillée pour une tripartition du champ politique ? Sous-entendu, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de Constitution ? Réponse de Benjamin Morel. La crise est avant tout politique. Prenez cette assemblée et mettez-la dans le système allemand, elle n'en sera pas plus gouvernable. Les trois blocs n'offrent qu'une option, faire entrer deux d'entre eux dans un jeu de coalition politique. C'est ce que je vous dis. C'est ce qu'ont fait les centristes en s'appuyant sur le RN sans l'assumer et en continuant à les traiter de pestiférés. On voit bien que ça n'est pas stable. Eh ouais. On est bien d'accord. Bon, il le dit beaucoup plus élégamment que moi. Oh, joli le dessin de Jules. Ça n'est pas une motion de censure, c'est une motion de censu. Bonne nuit, X-Rex. Je ne partirai jamais. Je crois que c'est président Macron qui est croqué. Ok, ça c'est l'humain. L'opinion, alors l'opinion, eux, ils vont en colère. L'opinion, c'est un journal libéral. À mon avis, le départ de Barnier, ça ne va pas leur plaire. Qui disent l'opinion ? Est-ce qu'on a le journal de demain ? Ouais, je crois que c'est celui-là. 5 décembre, let's go. Macron face à un champ de ruines. Tous perdants, édito de Rémi Godot. Ne croyez ni les cris de victoire, ni les mots de confiance. Avec la chute de Michel Barnier, la France s'enfonce dans une crise dont personne ne connaît l'issue. Et surtout pas les professionnels de l'abandon qui prétendent tous nous diriger. À vrai dire, tous les acteurs coupables de cet effondrement annoncé sortent perdants après des mois d'irresponsabilité qui marqueront l'histoire. Rémi Godot, je ne peux pas lui donner tort, dénonce le comportement irresponsable de nos politiques. Perdant le président de la République d'abord, dont la dissolution aura précipité la décomposition politique quand il promettait une clarification censée relancer le pays. Bon, pire décision ever, la dissolution de Macron, et ça tout le monde le sait, sauf lui. Perdant le Premier ministre, Michel Barnier, tout sauf providentiel, prisonnier d'une méthode de dialogue et de respect obsolète, partant de passions tristes. Bon, Michel Barnier n'aurait pas été l'homme de la situation. Je sais pas, ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Perdantes, les composantes du socle commun. Salies par leur cynisme, leur lâcheté, leur fausse union dans l'intérêt supérieur. Donc ça, c'était des macronistes, une partie de la droite. Perdant la gauche, le nouveau Front populaire. Pourquoi ? La France insoumise... Oh, arrête de dézoomer. La France insoumise est discréditée par son obsession du chaos. Ses complices socialistes, écologistes et communistes se sont déshonorés par un asservissement au relent de calculs électoraux minables, perdant enfin le Rassemblement national, redevenu au grand jour un parti populiste du désordre, du double langage et de la démagogie décomplexée. Sans majorité de substitution, sans alternative crédible pour Matignon, qui croira qu'une solution pérenne, qu'un choc d'espérance, comme le dit le RN, ou un chemin de progrès, comme le disent les socialistes, sortiront de cette motion de censure ? Rémi Godot, lui aussi, dénonce un peu les responsabilités des acteurs politiques. Comme le dit Fizz with Bees dans le chat, ça tire à balles réelles, mais il n'y a rien de faux. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, c'est intéressant. Là, on a deux journalistes, François-Xavier Bourmeau et Mathieu Depris, qui estiment que ce que va essayer de faire le président Macron avec sa, le nouveau gouvernement qu'il va essayer de nommer, c'est de gagner du temps jusqu'en juillet prochain. Jusqu'à la fin du cooldown, quand il pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée. Je t'ai remercié, Abracor, tout à l'heure. Quims, je t'ai remercié, je ne sais plus.
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ah ouais. Gagner du temps jusqu'en juillet 2025, date à laquelle l'arme de la dissolution se rechargera automatiquement. Comment tenir jusque-là ? Faire comme si de rien n'était en renommant Michel Barnier n'est plus une option. Ok. D'accord, bah tu m'étonnes. Une autre piste ressurgit, celle de la coalition. Ok. Un large rassemblement clairement démocrate et républicain de, des LR au PS, avec toutes les composantes de la Macronie, avec pourquoi pas les écologistes et les communistes. Ok. À condition de trouver le profil adéquat pour faire vivre un tel attelage. Oh, vous imaginez le truc ? Un Premier ministre qui serait soutenu par la droite, par les socialistes, par les macronistes, pourquoi pas par les écologistes et les communistes.
Waouh !
Donc il faut trouver le bonhomme ou la bonne femme qui fasse tenir tout ça, quoi. Ouais. En quoi une autre dissolution résoudra le problème ? Ben, Soya, t'as raison de poser la question. L'article nous dit le président Macron joue la montre et attend la, de retrouver son ult, la dissolution en juillet prochain. Mais qui dit que les Français vont donner une majorité à Macron en juillet prochain au vu de ce qui se passe ? Je suis comme toi. Hein ? Je suis un peu sceptique. C'est fascinant ce qu'on vit. Parce qu'on n'a jamais vécu ça. Intéressant. On va pas lire l'équipe. Hein. Les échos, c'est sorti les échos. On a vu les échos tout à l'heure. Édito de Christophe Jacubizine, page 16. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu les avis pour voir si des gens ont des idées un peu originales. Christophe Jacubizine, qu'est-ce qu'il dit ? Hop. Il dénonce l'alliance entre les écologistes, les socialistes et le RN. Enfin, l'alliance, le fait que, enfin, que tout le monde ait voté la motion de censure. Ce n'est pas trop une surprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas grand-chose. Ouais. On est plus sur une analyse de pourquoi il y a eu le vote d'une motion de censure. Ça ne nous trouve pas beaucoup de... Ça ne trouve pas beaucoup de pistes de réflexion pour voir ce qui pourrait se passer, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu ? Bah, je crois qu'on a pas... bah, je crois qu'on a... On a tout vu, je crois, en vrai. Ok, sur les journaux. Bon, on a fait un peu le tour, hein, on a fait un peu le tour des pistes. Ce qui rend d'autant plus intéressant l'allocution du président Macron demain soir à 20h. Hein ça va se prendre où ? Ça va se prendre sur. C'est quoi ? C'est sur la chaîne YouTube de l'Élysée, ça ? Hein, c'est en direct, voilà, normalement. Normalement, voilà, normalement, ce sera là. Voilà. Hein normalement, il y a la chaîne YouTube de l'Élysée, là. Regardez, là, par exemple, Il y a 6 jours, ils ont diffusé une déclaration conjointe du président Emmanuel Macron et du président de quelque chose. Voilà, il y a des trucs là, ça peut être là. Et si on va sur le site de l'Élysée directement, là, elysée.fr. Hop. Où est-ce qu'ils mettent ça? Ils ont pas un... Pas terrible leur site là. Ouais. Les gars qui connaissent un petit peu, qui maîtrisent un petit peu, à votre avis, l'idéal? L'idéal. Ouais, je pense que sur la chaîne YouTube, non? Ouais, sur la chaîne YouTube, hein. Ouais, l'Ospiros, toi aussi, tu penses ça? Ouais, YouTube, ouais, c'est ça, hein, là. Hein. On prend ça, ouais, très bien. Bon, on sera là. Vous savez quoi, je vais rester. Ah bah non, je peux pas, j'ai la question pour un champion demain. Sinon, je serais resté là en attendant, quoi. Bon, bah voilà, les amis, pour cette petite soirée Étienne, spéciale motion de censure. Hein, en vrai, ça m'aurait plu de faire un petit peu de GTA, mode histoire, un petit peu de Valo, pour essayer de sortir de mon bronze là, hein, un jour. Un petit peu de TFT, c'est TFT? C'est ça, ouais. Ouais. C'est pas trop tard? Bah si, j'aime. Alors en vrai, là j'y ai pensé à lancer une petite game Valo, mais 23h50, moi je me lève très tôt, enfin très tôt, non, je me lève pas très tôt, je me lève à 6h30 demain. Je pars à 7h30 à question pour un champion. Parkitosaur, bonjour Samuel Etienne, j'ai pas tout compris, il n'y aurait pas moyen d'avoir un mini résumé simplifié. Ok. Cet après-midi, non pardon, en fin de journée, à 20h20, 20h30, une majorité de députés a voté une motion de censure contre le gouvernement Barnier. C'est-à-dire que ce gouvernement, il a sauté. Hein, il a été viré. C'est arrivé 2 fois seulement dans l'histoire de la 5e République, la dernière fois c'était en 1962. Donc c'est historique ce qu'on vient de vendre, voire ça n'est quasiment jamais arrivé. Voilà. Donc, pourquoi c'est pas tellement une surprise? Parce qu'on a une assemblée qui est éparpillée entre différentes forces politiques et il n'y a pas de parti qui a suffisamment de députés pour soutenir avec une majorité absolue ou relative forte un gouvernement, ce qui est très embêtant. Voilà. Donc, eh ben, il faut nommer un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de gouvernement, ben, il n'y a pas de loi, et notamment il n'y a pas de budget. C'est un peu problématique pour un pays comme la France. Le président Macron prend la parole demain soir à 20h, voilà, pour faire une déclaration. Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'en sais rien. On est dans l'inconnu, comme le disent beaucoup de médias. Voilà, parce que ben, c'est une situation politique qui ne s'est jamais présentée en France, puisque même la situation de 1962 était très très différente avec une majorité très très forte pour le pouvoir politique de l'époque, à savoir le président général de Gaulle et le Premier ministre Georges Pompidou. Voilà. Comme le dit The Raf 974, résumé ultra simplifié, encore plus court, c'est la merde depuis l'idée géniale du président de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pas faux. C'est très résumé, mais c'est pas faux. Voilà. Donc, mais c'est bien résumé. Donc bah voilà, moi j'aurais bien voulu lancer un peu de gaming, mais ça va pas être possible, puisque demain j'ai une grosse journée de questions pour un champion, et j'aime ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à venir le voir tous les jours à 18h10 sur France 3. J'aime ce jeu, c'est un jeu de culture, c'est un jeu de connaissances, les candidats sont adorables, ils sont hyper gentils. En plus là, on a un mois de décembre qui commence là, qui va être exceptionnel, mais je vous dis ça vraiment sincèrement, on a... Là, dans quelques jours, à partir du 7, je ne sais plus, on a 4 jours de compétition de questions pour un champion spécial patrimoine. À l'occasion de la réouverture de la Notre-Dame de Paris, on fait des émissions spéciales patrimoine avec que des candidats qui bossent dans le domaine du patrimoine, de la culture, dans les musées et tout. Donc, on va faire 4 belles émissions avec des gens passionnés de patrimoine et de culture. Et c'est vraiment sympa. Donc, ça, c'est dans quelques jours. Et après, les 3 dernières semaines de décembre, on a une compétition de fou, mais totalement insane, la plus grande compétition jamais organisée dans l'histoire de questions pour un champion, qui est un jeu qui a été lancé en 1988, un jeu qui a 36 ans. On va faire la plus grande compétition jamais organisée dans l'histoire de questions pour un champion, ça s'appelle les Masters. Un des Masters dans l'histoire de questions pour un champion, il y en a eu quelques-uns. Le Master, en gros, c'est se faire s'affronter les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses de l'histoire du jeu. Et là, on a pris, écoutez bien, les 64 meilleurs joueurs de questions pour un champion 64 candidats. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est un peu notre Ligue des champions. Ouais, c'est les Worlds de questions pour un champion. 64 candidats, 32 hommes, 32 femmes. Voilà. Ils ont tous gagné, déjà. Ils n'ont pas gagné une victoire à question pour un champion. Ils n'ont pas gagné deux victoires, trois victoires, quatre victoires. Ils ont tous gagné au moins cinq fois d'affilée. Donc vous savez que gagner à question pour un champion, déjà, c'est un peu insane. Faut une bonne culture générale, il faut être bien rapide, voilà. Faut connaître un peu la mécanique du jeu. Gagner deux victoires, waouh, t'es pas là par hasard, toi. Trois victoires, ok, tu commences à rentrer dans un petit cercle des mecs ou des nanas qui assurent, quoi. Quatre victoires, waouh. Cinq victoires ou plus, bon là, on est sur des vrais champions. On en a 64 comme ça. Voilà. C'est l'arène, c'est des gladiateurs de la culture. C'est des gladiateurs de la connaissance, ça va être incroyable. Donc, une compète de fou, trois semaines. Il y a des demi-finales, il y a une finale. Et le 31 décembre, dernière émission de l'année, il y aura la grande finale des Masters. Et donc, vous aurez, sur ces 64 qui, sur le papier, sont les meilleurs joueurs de l'histoire du jeu, il y en aura un ou une qui sera le grand champion, la grande championne. Moi, je sais déjà parce que j'ai déjà mis ces émissions en boîte. Voilà, ça va être top, hein. Cash prize, le grand gagnant a le droit de prendre un café avec moi. Un café sans sucre. Enfin, moi, je prendrai un thé parce que je ne bois plus de café. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas trop bu mon thé de ce soir. Question pour un champion, c'est de l'argent public, on fait attention. Non, en vrai, ils ont des voyages de fou. Ils ont des voyages super beaux. Ouais. Non, si, j'ai le droit. L'émission du 31, elle est enregistrée depuis trois semaines. Voilà. Rayou, non, Rayou, c'est pas maintenant, Rayou. Point d'exclamation étoile, E-T-O-I-L-E-S dans le chat. Et vous avez le. Voilà, une petite idée de quand Rayou passera à peu près. Rien n'est sûr, mais ce ne sera pas avant. Voilà. Ce ne sera pas diffusé. N'attendez pas Rayou à la télé avant le mois de mars, au plus tôt. Parce qu'il est très pris. Donc, je pense qu'il ne viendra pas jouer avant janvier. Janvier ou février. Voilà, je pense qu'on aura une diff au plus tôt en mars, quoi. Voilà. Voilà. Au mieux. Hein, c'est parce qu'il est très occupé, mon Rayou. Je peux comprendre, en vrai. Donc, voilà. Donc, il ne sera pas. C'est pas tout de suite. Merci beaucoup, Mr. McCains, pour le raid. Bon. Merci, Jumping Jack Lack. Merci pour ce soir. C'est cool de parler avec vous. On était un peu plus de 5000 tout à l'heure. On n'est pas tous du même avis. On n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes sensibilités, voilà, hein, sur plein de sujets. Mais au fil du temps, on a réussi à créer cet espace ensemble. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Où on arrive à en discuter, on arrive à exposer nos idées et en parler ensemble. Pas forcément pour se convaincre, pas forcément pour se dire eh, « moi j'ai raison et toi t'as tort », mais pour échanger des propos, des analyses sur l'actu. Voilà. Parfois en se disant « ah, c'est pas con ce qu'il dit, ah, peut-être que c'est peut-être moi qui me trompe un peu sur ce sujet, ou pas, voilà. Mais, moi, t'es un peu cool, quoi. » Voilà, ça, j'aime bien ce qu'on fait ici. Voilà. Bravo King Julian, 8h de Jean, 2h30 de Samuel, quelle journée. C'était un petit stream, 2h30, ouais. Bon, moi j'ai une grosse journée quand même, elle a commencé tôt ce matin. Je remets ça demain. Demain soir, on se retrouve. Bon, ben, je voulais faire du gaming demain soir, mais je pense qu'on va plutôt se taper Macron. Hein, tu fais plus de GTRP. Mais si, bien sûr, j'adore. Voilà, au moins une fois par semaine. Je comptais en faire. Je vais en faire cette semaine. Hein. Alors, je comptais en faire ce soir du GTA. Pas possible. Je comptais en faire demain soir. Ça va être compliqué. Mais il y en aura un. Putain, ouais, c'est vrai que demain, c'est jeudi déjà. Quand est-ce que je joue à GTA, moi ? Petite surprise, dimanche soir, il n'y a pas de Ça me plaît. Exceptionnellement, mon premier JDR, mon premier jeu de rôle, dimanche soir à 20h, ça va être génial. Quand est-ce que je vais pouvoir faire du... Quel jour on est, là ? Le 4 ? On est le 4 ? Le soir... Demain soir, ça va être du Macron. Ah, bah vendredi soir, peut-être. Ah ouais. Ah oui, samedi soir, j'ai le combat de boxe, c'est vrai, ouais. DTR, là. C'est vrai. Ah ouais, mais dis donc, je vais pas pouvoir streamer beaucoup de gaming cette semaine, c'est nul. Hein. Ouais. Ouais, JDR. Jeu de rôle. Mon premier jeu de rôle, dimanche soir, à la maison. Ça va être top. Voilà. Bon, prenez soin de vous, les amis. Vous êtes très nombreux, on va en profiter pour donner de la force à un autre streamer, une autre streameuse. En conclusion, comme le dit Keba, vive la République et vive la France. C'est trop mignon. Pas gifle prévu. Bravo, Nifleur de Play. J'ai la ref. Il y en a qui suivent, qui sont fidèles. Alors, qui est en live là actuellement? Ça fait plaisir en vrai. Ouais, je sais, t'as raison pour le best-of. Merci Alexandra. Tu suis Alexandra. Hein. Merci. Il y a qui est en live là? Oh, il y a du monde. C'est cool. Tous ces créateurs là, c'est beau ce que je vois là. Je regarde un petit peu tout le monde là. Oh, merci notre stand. Ah, mais j'ai des propositions là. Attendez, je regarde parce que j'ai les copains. J'ai les copains aussi. Oh, il y a tellement de gens. Attends, je descends. Je vais voir les plus petits d'abord. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est... Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Attendez, j'ai une idée. C'est quoi ça? J'ai une idée. C'est quoi ça? Je ne connais pas. J'ai une idée pour finir un peu de chill. Oh ouais, on fait ça. Oh ouais, j'ai envie de ça. Oh oui, j'ai une idée là. Un peu de chill. Ah oui. Un truc un peu de chill. Vous voulez bien? Vous me faites confiance? Attendez. Oh yes. Oh yes. Ok. Alors on s'est pris la tête sur la politique là. Ok. C'est on est sur du... Bravo Polydor, t'as deviné. On est sur une chaîne de musique. On est sur un duo, un couple. Voilà. C'est des anglo-saxons. Ils s'appellent Adele and Andy. C'est des super musiciens, super chanteurs. Ils sont adorables. Adorables. Ils sont hyper gentils. 74 viewers, alors qu'ils méritent bien plus. Voilà. Et c'est des gens formidables. D'ailleurs, on les raide régulièrement. Et ils nous raident gentiment, très régulièrement. Ils méritent de la force. Et c'est toujours des bons moments avec eux. Donc c'est parti pour Adele and Andy. Voilà. Vous allez voir, ils sont trop gentils et puis ils chantent super bien. Voilà. C'est des incroyables musiciens. Voilà. Let's go, Adele and Andy. Prenez soin de vous. Merci de la force que vous me donnez. Merci de la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses. Vous savez, si on arrive à streamer autant et à être là aussi souvent, aussi longtemps et à vous proposer des contenus, bah, c'est grâce à vous, c'est grâce à cette relation qu'on crée, à ces échanges du quotidien. C'est humainement, c'est des trucs super agréables à vivre. Voilà, moi j'aime bien ça quoi. Voilà, merci encore, à demain pour direct de l'Elysée. Je vais essayer d'arriver vers le plus tôt possible, on a vu vers 19h30 au plus tôt. Hein. Voilà, à demain soir, merci encore pour aujourd'hui. Ciao, let's go pour le raid. Adele and Andy.